Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Bidibi et Hermione Kouéban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jésuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Puisque la solution existe.
Excellent Père de gloire, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es non seulement avec nous, mais tu es en nous, Seigneur. Tu nous as gardés depuis hier, tu es encore avec nous aujourd'hui. Et je sais qu'aujourd'hui encore, comme toutes les fois, comme chaque fois, parce que tu nous as jamais manqué, tu n'as jamais manqué ce rendez-vous, Seigneur, tu feras des miracles, tu feras des prodiges. Merci Seigneur parce que ta parole de vie va toucher des gens maintenant au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur parce que ta parole va affranchir des gens maintenant au nom de Christ Jésus. Merci parce que quelqu'un va guérir, quelqu'un va voir sa vie transformée, quelqu'un va se réveiller, quelqu'un va rouler sa pierre ce soir par ta parole au nom de Christ Jésus, Seigneur. Tu sais de quoi nous avons besoin, tu sais ce qui doit nous restaurer, tu sais ce qu'il nous faut, Seigneur, qu'il te plaise de pouvoir avoir nos besoins ce soir. Parle-nous, Seigneur, prends le contrôle, nous voulons nous abandonner à toi. Parle à chacun de nous. Que cette soirée soit une soirée extraordinaire, une soirée qui nous délie, une soirée qui nous fortifie, une soirée qui nous équipe, une soirée qui nous outille, une soirée qui nous fait rentrer puissamment dans ton règne. Merci Seigneur parce que je sais que tu as déjà fait cela pour nous. Sois béni. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen.
Alors, Ésaïe 61, verset 1 à 6, je l'appelle le bon de commande de Dieu pour chaque croyant. En gros, vous pourrez le relire en détail, je vous conseille même de marquer ça dans vos Bibles, c'est le cœur de la vie chrétienne. L'Esprit du Seigneur ne vient pas sur nous. Le Saint-Esprit n'est pas avec nous. Et donc ne se manifestera pas. Les gens disent, Saint-Esprit descend sur moi. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. On appuie le bouton, on essaie de descendre sur les gens parce qu'on l'a beaucoup appelé. Ce n'est pas parce qu'on dit Saint-Esprit, Saint-Esprit, et puis on crie, crie Saint-Esprit, que Saint-Esprit arrive. Non. Le Saint-Esprit, comme je le dis souvent aux gens, ce n'est pas une chose. Les gens se disent qu'il y a Dieu, qui est Dieu, il y a quelqu'un qu'ils appellent Jésus, et il y a quelque chose qui est le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens très sincères prennent le Saint-Esprit pour quelque chose. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Jésus n'est pas quelqu'un. Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu. Dieu, c'est le Saint-Esprit. Aussi vrai que je suis Edgar Guidibi. Edgar Guidibi, en même temps, le DG de Global. Et Edgar Guidibi, en même temps, par exemple, le papa de Audrey. C'est trois personnes différentes, mais qui ne font qu'une seule. Quand vous cherchez le papa d'Audrey, il est là. Ce n'est pas entièrement Edgar Guidibi. Edgar Guidibi est plus grand que le papa d'Audrey parce que c'est de Edgar Guidibi que sort le papa d'Audrey. Le papa d'Audrey n'est qu'une partie du Edgar Guidibi global. Mais en même temps, le papa d'Audrey est entièrement Edgar Guidibi. Tout en étant le père du papa d'Audrey. C'est moi qui ai généré le papa d'Audrey. Si je n'existais pas, il n'y aurait jamais eu de papa pour Audrey. Le papa d'Audrey est le fils de Edgar Guidibi. Mais en même temps, il est Edgar Guidibi. Le DG de Global est le fils d'Edgar Guidibi. En même temps, il est Edgar Guidibi. Le DG de Global est aussi le bras droit. La main droite d'Edgar Guidibi. C'est l'agent exécutant. C'est l'agent opérationnel. C'est le stratège. C'est celui qui travaille. C'est le directeur exécutif de Dieu. Le DG de Global, c'est l'équivalent du Saint-Esprit pour Dieu. Il est là. C'est lui qui agit. C'est lui qui commande. C'est lui qui contrôle. C'est lui qui gère les choses. Mais le DG de Global, c'est en même temps Edgar Agdibi. Il est peut-être plus petit que Edgar Agdibi. Parce qu'il vient d'Edgar Agdibi. Mais en même temps, il est né le même jour qu'Edgar Agdibi. Bien que Edgar Agdibi, le père, soit le premier. Ils sont tous avec Edgar Agdibi, le père, depuis le début. Même s'ils sont venus après lui. Nous sommes d'accord. Ça fait trois personnes en une. Edgar Agdibi, le papa d'Audrey, n'est pas quelqu'un. C'est Edgar Agdibi. Qu'est-ce que les gens font avec Jésus? Ils voient Jésus, ils disent, montre-nous le père. Il dit, mais vous ne m'avez pas vu depuis? Je suis avec vous. C'est comme si quelqu'un croise le papa d'Audrey à la plage. Il dit, Audrey, ça va? Bon, montre-moi le DG de Global. Il dit, mais c'est là. Non, je ne veux pas parler de ton papa, je veux le DG de Global. On dit, ah, mais le DG de Global, c'est là, c'est lui. Il dit, non, ça c'est ton papa, je veux voir le DG de Global. Eh bien, je fais que le DG de Global, c'est aussi le papa d'Audrey. C'est différentes personnes, dans différents rôles, et qu'on saisit différemment. Si tu veux voir le DG de Global, il faut aller à Global. Il faut écrire, il faut faire une demande de rendez-vous. Mais si tu vas à la plage, là où Audrey entre jouer avec son papa, tu peux voir papa Audrey. Papa Audrey, c'est l'amour d'Edgar incarné pour son enfant. Le DG de Global, c'est la technicité, c'est la puissance peut-être d'Edgar Agdibi. Le DG de Global est plus difficilement accessible que le papa d'Audrey. Et donc, Audrey peut te dire, je vais vous donner un secret. Si vous voulez aller à Edgar Agdibi, le chemin le plus simple, c'est de passer par papa Audrey. Si vous coincez papa Audrey à la plage avec moi, vous irez beaucoup plus rapidement à Edgar Agdibi, le père, que si vous passez par le côté du DG de Global. Mais en même temps, quand tu as fini de voir Edgar Agdibi, le papa d'Audrey, et tu veux acheter une parcelle, tu veux qu'on t'aide avec un problème, c'est bien le DG de Global qui va agir pour toi. Ce n'est pas le papa d'Audrey. Même s'il est le seul chemin qui te permet d'arriver facilement à Edgar Agdibi, le père. Les trois sont une seule et même personne, en trois fonctions. Quand je dis ça, certains me disent, mais pourquoi il se parle? Pourquoi Jésus, en étant sur la terre, parle à son père? Et pourquoi ils ne sont pas au même endroit? D'abord parce que Dieu est esprit. Un esprit est omniprésent. La Bible nous illustre bien que Dieu est un souffle. Dieu est comme de l'air. Nul ne sait d'où il vient et où il va. On ne peut pas l'attraper. Il souffle. L'air qui est dans mes poumons, et l'air qui est dans ses poumons, et l'air qui est dans ses poumons à lui, et l'air qui est ici, c'est l'air qui est à Savalou, c'est l'air qui est à Latitengou, c'est l'air qui est à Paris, c'est l'air qui est en train de faire les typhons en Philippines, c'est l'air qui est en train de donner 12 briques à certains au bord de la plage, c'est l'air qui va faire la matin, c'est l'air qui va faire la neige. C'est le même air, c'est le même vent. Il est partout à la fois sous différentes formes, sous différentes tendances selon les contextes. Mais c'est le même air. Il n'y a pas l'air de Cotonou et l'air de Paris. C'est le même air. Il est partout à la fois. Et ça ne pose problème à personne. Parce qu'on ne le voit pas, les gens polluent l'air comme s'il n'existait pas. Mais dès que l'air pollue, vous commencez à sentir les conséquences sur vous. Vous commencez à être malade, vous commencez à avoir des problèmes de peau, vous commencez à avoir une série de problèmes. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il faut le mépriser. L'air, on ne le voit pas. Ça n'a l'air de rien. On le banalise. Mais si je fais en sorte qu'il n'y ait plus d'air ici, vous allez tous mourir. C'est l'air qui vous donne la vie. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il faut le mépriser. Et l'air peut être partout. Demander comment Dieu fait pour être partout à la fois, c'est demander comment l'air fait pour être partout à la fois. L'air est partout à la fois. Quand quelqu'un veut mourir, on dit là, il fait son dernier soupir. Il relâche le souffle de vie. C'est comme ça qu'on meurt. Ce que Dieu fait pour donner la vie à quelqu'un, c'est donner le souffle de vie. Mais l'air peut être sous forme gazeuse. Dans un congélateur, ça devient de la glace. Là, c'est tangible. C'est Jésus incarné. On peut toucher. Ça peut être sous forme d'eau. Selon les contextes, Jésus dit, si vous êtes en moi, des sources d'eau vive couleront de vous. Il dit à la Samaritaine, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Pour cerner, Dieu n'est pas le vent, hein, mais sur la terre, la chose qui vous permet le mieux de comprendre qui est Dieu, c'est le vent, c'est l'air. Et quand on dit Dieu est partout, votre esprit est partout, non? Vous pouvez être assis là, penser à votre femme, penser à vos enfants, penser à votre travail, penser à vos vacances. On ne peut pas empêcher votre esprit de circuler. Ce n'est pas là où il y a votre corps que votre esprit est, n'est-ce pas? Tu peux être ici et ton esprit est dans ton plat que tu vas manger tout à l'heure. Ou bien, pourquoi vous pensez que Jésus ne peut pas être sur la terre pendant que son esprit est à la fois sur la terre et chez le Père? Alors, pourquoi il se parle? Est-ce que la même personne peut se parler? Mais oui, je suis au boulot à 23h. Je suis Edgar Agdibi le Père. Mais en fait, Edgar Agdibi le papa d'Audrey est là aussi. Edgar Agdibi le DG Global est là. Edgar Agdibi, le papa d'Audrey, à 23h, dit, papa Audrey, il est temps que tu rentres à la maison voir les enfants. Je suis tenté de dire, allons-y. Edgar Agdibi, le DG Global, parle pour dire, non, ça ne marche pas comme ça. Si tu écoutes Edgar Agdibi, papa Audrey, que tu rentres, qu'est-ce que les enfants vont manger? Tu passes tout le temps à rentrer pour aller jouer avec les enfants, c'est bien beau, mais ils vont manger quoi si tu ne travailles pas? Laissez-moi, Edgar Agdibi, le DG Global, travailler pour vous nourrir. Edgar Agdibi, le père, doit arbitrer. J'écoute Papa Audrey ou j'écoute le DG de Global. Je prends une décision, je dis ok, travaillons encore 30 minutes de rencontre. Les trois personnes viennent se parler. Et pourtant, c'est une seule personne. C'est ça le mystère de Dieu, trois personnes. Je vois des gens dire, comment Dieu peut avoir un fils? Est-ce que Dieu a une femme? Dieu ne peut pas avoir d'enfant? Il ne peut pas avoir d'associé? Il faut demander à Dieu la révélation, arrêter de raconter des bêtises. Dieu est un, il est unique, il n'est pas trois. Il n'y a pas de trinité. Il y a un seul Dieu en trois dimensions. Et chaque dimension de Dieu correspond à une fonction. Tu veux de l'amour, va voir Papa Audrey. Quand Jésus se baptisait, qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé. J'ai mis tout mon amour en lui. C'est parce que c'est là que Dieu a mis son amour, que c'est là le bon chemin pour aller à Dieu. Si vous allez à Dieu du côté de la justice, du côté de la puissance, du côté des terres des armées, vous ne pouvez pas tenir, vous allez mourir. Le Dieu que les Moïse ont vu là, c'est l'éternel Dieu des armées. Vous ne pouvez pas le rencontrer et vous allez survivre. Qu'est-ce que les gens faisaient? Ils fuyaient. On dit, je ne veux pas voir l'éternel, parce que si je le vois, je vais mourir. Les gens le voyaient de dos. Vous ne pouvez pas voir Dieu le Père dans sa totalité vivre. On ne peut pas approcher du papier d'un feu et dire que le papier veut garder le feu. S'il approche du feu, il brûle. Ou bien, mais on peut mettre un miroir devant le feu et approcher le papier du miroir. Celui qui a vu le feu dans le miroir a déjà vu le feu. Mais s'il s'approche du feu lui-même, il va mourir. Vous pouvez vous approcher de Jésus, mais vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu le Père n'importe comment. Il a mis une partie de lui. Il a mis toute sa dimension amour. Faites dont vous avez besoin dans Jésus. Il vous dit pour me parler, prenez-moi par mon côté, Jésus. Ce n'est pas quelqu'un, Jésus. Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est le Fils de l'homme, Dieu, Fils de l'homme. Mais quand il est parti, il n'est plus Jésus aujourd'hui, il est Christ. C'est-à-dire, il est la réalité spirituelle, l'Esprit de Dieu qui est venu en mission. Jésus reparti maintenant, il est Christ assis à la droite du Père en chacun de nous. Ce n'est pas Jésus, le corps qui est en nous, c'est Christ qui est en nous. C'est Christ, le Sauveur qui est en nous. Et quand on dit que Dieu est en vous, c'est que le Christ est en vous. L'Esprit de Dieu est en vous. Ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit à travers vous. Vous devenez une marionnette, vous devenez quelque chose que le Saint-Esprit téléguide. Et si en priant vous êtes exaucé, ce n'est pas parce que vous êtes fort, c'est parce qu'en vous, c'est l'Esprit de Dieu qui commande. Quand vous priez au nom de Christ, ce n'est pas juste une formalité au nom de Jésus, non. C'est une manière de dire à Satan, écoute-moi bien, tu me vois comme ça, ce n'est pas moi qui parle. Celui qui est en moi là, Christ là, il te commande de bouger. Les esprits mauvais bougent. Prier au nom de Christ, c'est dit, attention petit, hein, tu me vois là, ce n'est pas moi que tu vois. C'est Christ en moi qui te commande. Et il est écrit qu'au nom de Christ, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand vous êtes chrétien, sincèrement né de nouveau, je ne parle pas des comédiens qui se baladent à l'église. Si vous avez vraiment donné votre vie à Jésus, quand vous vivez là, ce n'est pas vous qui vivez. C'est Christ qui vit, vous êtes comme la carapace de la tortue sur Christ. Vous n'avez pas besoin d'être fort. Ce n'est pas votre problème. C'est lui qui est fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais pour être dans cette alliance-là, on va lire, je crois, le petit chapitre 2, versets 11 à 13. Allons-y.
Qui dit, aucune des offres que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. Car vous ne brûlerez qui contiennent du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande des prémices, mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme offrande d'une agréable odeur. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes.
Alors c'est ça qui m'intéresse. Répétez.
Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes.
Continue.
Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Mm-hmm. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur point. Toutes tes offrandes, tu mettras du sel.
Relisez, ça fait combien de fois sel dans la phrase? Relisez. Alors, Lévitique, c'est un lieu qui donne les règles, les commandements pratiques sur la manière dont il faut rendre un culte à Dieu. Et là, Dieu donne des consignes sur comment faire une offrande qui lui est agréable. Comment passer une alliance qui lui est agréable. Relisons ça. Verset 13.
Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes.
Sel une fois.
Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel.
Sel deux fois.
Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettra du sel.
Ça fait trois fois. Dans un seul verset, Dieu mentionne la nécessité du sel trois fois. Dans un seul verset, hein, c'est le verset 13. Ça veut dire quoi? Nous avons vu hier que Dieu nous demande d'être le sel et la lumière du monde. Le sel, c'est ce qui donne de la saveur aux choses. Quelle que soit la manière dont une chose est mauvaise, si vous y mettez un peu plus de sel, ça limite les dégâts. Et si une sauce a tous les ingrédients, qu'elle n'a pas de sel, elle est immangeable, elle n'a pas de goût. C'est le sel qui donne de la saveur aux choses. C'est le sel qui rend les choses succulentes. Et ce qu'on oublie, c'est que quand on fait des recherches, par exemple, sur les vertus du sel, le sel a beaucoup d'autres fonctions. Il y a du sel qu'on met dans de l'eau pour faire des massages, pour faire des bains. Il y a des sels qui guérissent des arthroses, des rhumatismes. Le sel a des fonctions pour détruire, par exemple, les calculs biliaires. Bref, le sel est non seulement un produit qui donne du goût, mais qui a une série de vertus curatives pour le corps. Par exemple, quand vous prenez une bonne dame, quand elle veut conserver du poisson et qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on met beaucoup de sel dessus, ça dessèche le poisson, il se conserve plus facilement. D'accord? Le sel permet d'empêcher les choses de pourrir. Ça empêche la corruption des choses. Quand Dieu vous dit que vous devez être le sel de la terre, ça veut dire quoi? Vous avez vocation à empêcher le monde de pourrir. Vous avez vocation à donner du goût au monde. Les temps sont durs, rien ne marche. Dieu s'attend à ce que vous donniez du goût à ce monde insipide et fade. Il veut que vous aromatisiez le monde. Si le monde a tout, comme de certains pays, comme le Bénin, comme le Nigeria, mais rien ne va dedans, c'est parce qu'il manque un peu de sel chrétien. À l'opposé, il y a des choses catastrophiques comme dans certains pays. Dès qu'un peu de sel chrétien va arriver, ça va devenir mangeable. Je crois que dans deux rois, je ne sais plus si c'est deux, 22 ou tout comme ça, on voit par exemple le prophète Élisée. À un moment, les eaux étaient devenues amères. Les gens sont partis voir le prophète Élisée. Qu'est-ce que Dieu a demandé à Élisée de faire? De demander un peu de sel et de mettre dans l'eau. Dès qu'il a mis un peu de ce sel dans l'eau, cette source d'eau qui était amère et imbuvable pour toute la communauté est devenue pure. Le sel, pour restaurer l'eau, la source de vie de toute une communauté. Cela veut dire que pour Dieu, le sel est l'une des choses essentielles, sans lesquelles rien n'a de la saveur, sans lesquelles rien ne fonctionne. Vous êtes appelé à être le sel. Vous êtes appelé à être ce témoin de Christ. On l'a vu dans verset 61, qui apporte aux gens la joie, qui apporte aux gens la délivrance, qui apporte aux gens le soulagement, qui apporte aux gens la bonne nouvelle. Vous êtes censé apporter aux gens la lumière. La lumière, c'est quoi? Les gens sont aveugles. Combien de personnes savent aujourd'hui où ils vont? Combien de personnes peuvent vous dire ce qui va se passer dans un an? Les cris sont là, les gens sont perdus. Ils ne comprennent plus rien à ce qui se passe. Le chagrin, la tristesse, les soucis des gens actuellement ne sont pas liés qu'à ce qui se passe. C'est lié au fait que pour l'une des rares fois dans l'histoire, des choses se passent, mais personne ne peut nous dire ce qui se passe et ce qui va se passer. À part ceux qui connaissent la parole de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué? G8, G20, G1000 qui sont en train de faire là. Avant, ils sortaient des G8 là, ou des G20, en faisant de grands discours, on a pris telle décision, on va maîtriser la crise, regardez bien. Ils parlent de moins en moins, ils n'ont plus rien de bon à dire. Tout ce qu'ils avaient à dire, ils ont essayé, ça ne marche pas. Le monde est en crise et est paniqué. Parce que les plus grandes puissances, tout ce qu'ils ont toujours fait comme discours ne marche plus. Ils ne voient plus rien, ils sont dans l'obscurité totale. Comme le dit, je crois, Deutéronome 8, ils tâtonnent en plein midi. Le monde aujourd'hui tâtonne en plein midi. La technologie est là, la science est là, les inventions sont là. Nous sommes en midi du monde, mais le monde tâtonne dans l'obscurité en plein midi. À ce moment-là, Dieu dit que vous, parce que la parole de Dieu est une lumière à vos pieds, vous devez, dans ce monde où tout le monde tâtonne là, apporter la lumière. Guider les gens, leur dire, voilà la voie, voilà la solution, voilà pourquoi tout marche mal, voilà ce qu'il faut faire. Dieu veut que vous soyez le sel de ce monde et la lumière de ce monde. Mais ça ne vous intéresse pas. Vous voulez juste prier pour être béni. Vous croyez que vous pouvez être en alliance avec Dieu, comme je l'ai dit, et bénéficier de Dieu sans être le sel. Et là, il vous dit dans 2 Lévitiques, crois-vous en un verset, qu'il n'y a pas d'alliance avec lui sans sel. Si tu fais une alliance, tu ne mets pas du sel dedans, Dieu dit, il n'en veut pas de garder ton alliance, de garder ton offrande. Quelle que soit l'offrande que tu fais, il a dit trois fois. Quand Dieu dit trois fois quelque chose, c'est comme quand il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Je t'ai bien dit. Quand Dieu dit comme ça là, c'est que c'est très très important. En un verset, pas en deux versets, pas en trois versets. En un verset, Dieu dit trois fois que sans sel, il ne veut pas de votre offrande, il n'a pas d'alliance avec vous. Cela veut dire que Pour ceux qui refusent d'être le sel de la terre, il n'y a pas de contrat entre Dieu et eux. Dieu ne les connaît pas. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, quand les gens faisaient des offrandes, on attendait de voir pour voir si Dieu a accepté l'offrande ou si Dieu n'a pas accepté. Au moins, ça permettait aux gens en même temps de savoir si ça marche ou pas. Si c'était comme ça encore aujourd'hui, beaucoup de gens entreraient à l'église, ils sortiraient, Dieu dirait, tu es venu perdre ton temps, je n'accepte pas ton offrande. Pourquoi? Tu n'as pas mis de sel. Qui toi tu as salé dans ta vie? Qui tu as sauvé dans ta vie? Quelle âme tu as gagné pour le Seigneur? À qui tu as apporté la joie? À qui tu as apporté la paix? Qui tu es parti aider? Tu n'es sel pour personne. Tu refuses d'être un sel que Dieu peut mettre pour accéder le monde. Tu refuses de mettre du sel sur ton offrande. Tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Tu ne veux pas mettre du sel sur ta vie. Dieu dit que ça ne le concerne pas. Va voir celui à qui tu vas offrir ton offrande d'ailleurs. Tout est écrit, hein. On prie, on n'est pas exaucé, tout est écrit. Vous n'êtes pas fatigué d'aller à l'église et de ne rien voir ce qui se passe dans votre vie. Moi, j'en fais l'expérience tous les jours. Plus vous investissez pour le Seigneur, plus Dieu vous bénit. Quand vous voyez même dans nos églises, nos jeunes sœurs et consorts, quand elles n'ont pas de mari, elles sont à l'église tous les jours en train de servir. Rapidement, souvent, elles ont ce qu'elles veulent. Dès qu'elles ont ce qu'elles veulent, on ne les voit plus à l'église. Et maintenant, elles reviennent pour raconter les problèmes parce que tant aussi l'annonce a été reçue. S'il n'y a pas de sel sur votre offrande, vous n'avez pas de contrat avec Dieu. Et si vous voulez être le sel, vous devez respecter les critères qui permettent au sel d'être du sel. Est-ce qu'on peut saler une sauce en refusant d'y rentrer? Est-ce qu'on peut saler une sauce en refusant d'y rentrer? Pour saler une sauce, il faut bien rentrer dans la sauce. Risquer quasiment de disparaître dans la sauce, mais sachant que le sel est assez fort pour qu'on le repère toujours dans la sauce. Vous devez rentrer dans le monde même si vous n'êtes pas du monde. Les chrétiens sont arrogants et prétentieux. Ils méprisent tous ceux qui ne sont pas chrétiens, les tenant rigoureusement à distance au lieu de les approcher pour leur témoigner de l'amour et les saler. Tu vas à une radio comme Maranatha par exemple, tout est interdit. Si tu n'es pas ayatollah chrétien, tout est interdit. Tu veux un événement chrétien, tel artiste ne peut pas venir, telle personne là, Dieu fait via Jésus, pourquoi il est venu, on t'a vu avec telle personne, est-ce qu'il est évangélique? Ce genre de niaiserie là n'est pas biblique. Paul a dit, je suis l'apôtre des païens. Pierre, pour aller évangéliser, comment il s'appelle là? C'était Corneille. Il a voulu faire la même chose, animaux impurs. Dieu lui a dit, regarde, ce que tu appelles animaux impurs, ce n'est pas qu'il faut aller manger des animaux impurs. Mais ce que tu considères comme des gens impurs, moi je dis que c'est pur, va là-bas. Il est parti, il n'est pas parti. Qui vous êtes pour déclarer que les créatures de Dieu sont impures? Jésus est parti chez les prostituées, il est parti chez les pharisiens, il est parti chez les bandits, il est parti manger fêter avec les prostituées pour les impacter. Vous vous restez à l'église, vous faites des niaiseries, des discours ridicules, alors que vous êtes pire que tous ces gens-là dans le noir et vous refusez d'aller impacter le monde. On ne voit jamais de chrétiens à la plage. La plage est pour le diable. Alors que c'est à la place qu'il y a les gens à sauver. C'est dans votre église que vous allez sauver quelqu'un. Si les chrétiens ne sont jamais là où il y a le monde, ils s'enferment entre les quatre murs. Comment ils vont impacter qui? Paul dit, je suis parmi les païens. Je fais autant que je peux ce qu'ils font, afin dans tous les cas d'engager quelques-uns. Si vous êtes vraiment du sel, vous rentrez quelque part, vous ne devez pas avoir peur qu'on vous transforme. C'est vous qui transformez. C'est la force dominante qui impose les choses. Ne vous arrêtez pas sur le chemin des méchants. Mais allez fréquenter les méchants afin d'essayer de les gagner au Seigneur. Si vous êtes solidement ancré dans le Seigneur, vous pouvez risquer même d'aller parmi les prostituées, d'aller parmi les voleurs, d'aller parmi les tueurs, d'aller parmi les politiciens, d'aller parmi les escrocs. Pas avec orgueil, pas en les jugeant, pas en les défiant, mais avec l'amour. Si vous êtes avec l'amour, vous courez une chance d'ouvrir leur cœur et de les gagner au Seigneur. Si l'évangélisation n'avance pas, c'est parce que l'Église méprise, juge, condamne. Or Dieu dit, malheur à celui qui juge des miens. Vous n'avez pas à juger les serviteurs de quelqu'un. Si quelqu'un vient dans ta maison et commence à dire que tes enfants sont mauvais, même si tu sais qu'ils sont mauvais, est-ce que tu vas d'accord? On n'est jamais d'accord avec quelqu'un qui vient nous dire que nos enfants ne sont pas bons. On a le droit de dire que nos enfants ne sont pas bons. Mais on n'a jamais quelqu'un qui vient dire que nos enfants ne sont pas bons. Pourquoi croyez-vous que Dieu vous permettra à vous de venir lui dire que ses enfants ne sont pas bons? C'est-à-dire que leur père est mauvais. Quand on dit dimanche, on insulte le père. C'est parce que vous me suivez. Non, Dieu dit, vous n'avez pas le droit de juger. La vengeance, la rétribution, le jugement n'appartient qu'à Dieu. Parce qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas, que vous ne saurez jamais. Les gens qui prient, qui invoquent le feu sur tout le monde là, si le feu devait descendre sur tous les impies, surtout les païens, probablement que vous serez déjà mort vous-même avant de venir au Seigneur. Vous n'êtes pas venu en tant que chrétien pour condamner les non-chrétiens, parce que vous avez été non-chrétien. Il y a plein de gens qui sont nés dans une famille où père et mère sont évangéliques. Ils vont à l'église, mais ils ne sont pas chrétiens, ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Ils n'ont jamais reçu la révélation, ils n'ont jamais fait d'alliance avec Dieu. Ce n'est pas le fait d'aller dans une église qui fait de vous un chrétien. Mais nous jugeons les gens, nous condamnons les gens, nous espions les gens, nous créons la distance entre l'église et le monde, au lieu de réduire cette distance pour que l'église puisse impacter le monde. Que ce soit le sel ou la lumière, si le sel ne rentre pas dans un milieu, il ne peut pas le saler. Je ne peux pas empêcher du poisson de pourrir ou de la viande de pourrir avec le sel si le sel ne veut pas toucher la viande. Le sel doit risquer de se mélanger à la viande, de se salir à la viande, de disparaître sur la viande quasiment pour arriver à impacter la viande. C'est pareil pour la lumière. Jésus nous dit, est-ce qu'on met une lumière? On l'allume et on le cache sur le boisseau. Je veux vous éclairer ici, j'allume une lumière, je le cache quelque part sous un carton à l'arrière là-bas. Ça sert à quelque chose? Si je suis maître, que cette lumière doit consommer du carburant ou du pétrole ou de l'huile, est-ce qu'il y a un intérêt pour moi à mettre de l'huile dans une lampe qui va être cachée là-bas, qui n'éclaire personne de mes enfants? Pourquoi voulez-vous que Dieu vous donne des provisions pour briller si vous ne voulez éclairer personne? Plus une lampe doit éclairer du monde, plus on lui donne de l'énergie. Une petite lampe comme ça, c'est pour une petite salle. Si je fais un spectacle, il me faut une lampe de 1000 watts, de 3000 watts. Je vais mettre de grosses ampoules. Je vais donner beaucoup de courant, beaucoup de jus, parce qu'elle a vocation à éclairer beaucoup de gens. Et la puissance que reçoit une lampe est proportionnelle au nombre de personnes qu'elle éclaire. Vous n'avez rien de Dieu parce que vous ne voulez éclairer personne. Et pour vous-même, il ne faut pas beaucoup de lumière. Il faut quoi pour un homme? Vos téléphones portant vos torches, ça suffit. On parle d'ampoule quand il y a une maison, beaucoup de personnes circulent. C'est parce que vous comprenez. C'est pour ça que des fois, on prie, on fait tout, rien ne bouge. Parce que Dieu n'est pas distributeur de bonbons. C'est un Dieu d'alliance. Il y a un contrat. Si tu ne respectes pas les termes du contrat, Dieu ne va pas te tuer. Mais il ne va pas violer la loi parce que lui, il est Dieu. La lumière, on l'allume pour éclairer les gens. Les gens ont des questions. Est-ce que vous êtes capable de les éclairer? Les gens ne voient rien. Est-ce que vous êtes capable de leur montrer quelque chose? Comment vous pouvez être chrétien? Les gens disent franchement, on ne comprend plus rien. Le monde est foutu. Comment on va faire? Tout n'est plus bon. Il n'y a plus de couple heureux. Et vous fermez la bouche. Vous êtes lumière dans les ténèbres et il fait toujours noir. Donc vous n'êtes pas lumière. Quand j'allume une lumière quelque part, on n'a pas besoin de regarder la lumière. Si c'est la lumière, on voit immédiatement que les ténèbres deviennent lumière. Ou bien, je ne peux pas quelque part, il fait noir, dit, mais vous ne voyez pas, je suis lumière. Si tu étais lumière, on l'aurait vu, il n'y aurait plus de ténèbres. Ou bien, si tu es dans une famille où il y a les ténèbres, c'est que tu n'es pas une lumière. Tu ne peux pas dire que c'est les ténèbres qui ont refusé la lumière. Quand on allume la lumière quelque part, ça plaît ou pas à l'endroit. S'il y avait de la ténèbre, elle s'efface devant la lumière. Ou bien? Oui ou non? Quand je dis sur la lumière, c'est que quand vous arrivez là, ils peuvent ne pas vous aimer. Ils peuvent vous persécuter comme Jésus. Mais ils vont reconnaître que celui-là, il y a quelque chose. Celui-là doit être un fils de Dieu. Celui-là, il manifeste une puissance. Parfois, ils vont dire que vous êtes sorti au minimum. Mais ils doivent comprendre qu'il y a quelque chose qui brille plus qu'eux. Si vous êtes quelque part, on ne sait pas que vous êtes chrétien. Vous êtes quelque part, si vous ne mettez pas autocollant, Jésus est Seigneur, ou bien le poisson sur votre voiture, on ne sait pas que vous êtes chrétien. Ou bien c'est avec votre Bible que vous baladez partout pour voir que vous êtes chrétien. Donc, à part ces signes extérieurs, rien dans votre vie ne montre que vous êtes chrétien. Il faut chercher de quoi allumer votre lampe. C'est si vous les allumez, et si vous voulez éclairer le monde, que vous allez recevoir de la puissance. Et je lui dis, mais c'est ça, moi je connais des gens comme ça pour lesquels je prie cette fille. Je connais des chrétiens. Des gens chrétiens depuis des années. Mais quand vous les voyez se comporter, ils sont pires que des païens. Ils sont dans la prostitution, ils sont dans des vices, dans l'inceste, dans des choses inimaginables. On a envie de prier pour eux. Et des fois, je dis, bon, on va leur faire le Seigneur. Puis je dis, mais en plus, elle est déjà évangélique. Et c'est là où je comprends que le Seigneur dit, mais si le sel perd de sa faveur, avec quoi lui redonner notre âme? Si quelqu'un est chrétien et il est pire qu'un païen, qu'est-ce que tu vas faire pour lui? Il est déjà chrétien, tu ne peux plus lui annoncer le Seigneur. Il ne peut plus naître de nouveau. Qu'est-ce que tu fais pour quelqu'un qui est chrétien et qui est plus fade et insipide que païen? Que fais-tu du sel quand il n'a même pas de goût lui-même alors que c'est lui qui doit en avoir pour impacter les autres? Jésus dit qu'on ne peut que le jeter. On lit la Bible, on l'étudie dimanche, Jésus a dit et puis on rentre. Alléluia, gloire à Dieu, on rentre dans nos maisons. La parole de Dieu, ce n'est pas la théorie, ce n'est pas un livre d'histoire biblique ou d'histoire religieuse. C'est un mode d'emploi, c'est un guide pratique pour la vie. Avec quoi redonne-t-on au sel sa saveur quand le sel n'en a plus? Tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu as reçu la parole de Dieu, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, et tu as un comportement pire qu'un païen. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour te sauver? Voilà que je ne peux pas mourir deux fois. Est-ce que vous réalisez le problème quand on devient né de nouveau et qu'on fait comme si rien n'a changé dans sa vie? Il n'y a plus rien pour toi? Il n'y a plus rien pour te sauver? Sauf ton propre repentir pour courir et revenir à l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça la condition. J'insiste dessus parce que je veux voir un club avec des personnes bénies. Des personnes qui portent des fruits. Je prophétise qu'il ne doit y avoir, ce n'est pas un demi-chômeur, il ne doit pas y avoir de chômeurs ici. Il ne doit pas y avoir des personnes qui ne gagnent pas leur vie ici. Des gens qui sont en âge de se marier doivent être mariés. Des gens qui sont en âge d'avoir des enfants doivent avoir des enfants. Ils doivent avoir une famille bénie, dans laquelle il n'y a pas de dispute. Nous devons avoir des gens en pleine santé. Il ne doit pas y avoir des mœurs subites ici. Chacun doit vivre le temps que Dieu lui a donné. Je veux un groupe qui témoigne, qui démontre, non pas par des théories, mais de manière factuelle, de manière mesurable, qu'il y a une différence entre les gens qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Cela veut dire que je suis obligé de fouiller, de chercher, de demander à Dieu, révèle-moi chaque petit détail qui peut empêcher mes enfants spirituels de ne pas être bénis. Parce que moi, je veux qu'ils soient bénis. Je veux pouvoir dire au monde, regardez-les. Regardez le taux de chômage. Il y a 90% de chômeurs. Venez au club. Ils sont 100, ils sont 500, zéro chômeur. Comment c'est possible avec Jésus? Bon, on va voir. Quel est le taux d'hypertension dans la société? On va me dire, venez voir les meilleurs clubs, fouillez dans leur famille. Les vieux hypertendus? Non, pourquoi? Je vais vous dire, c'est Jésus. Venez voir les morts subites, les enfants qui meurent à l'accouchement. Quand on prend 10 femmes, il y en a combien dans le bénévole? On me dit, venez prendre toutes les femmes du club. Regardez ce qui s'est passé. Non, ça ne s'est pas passé. Le Seigneur m'a encore dit quand j'étais à Ouaga. Ça doit être psaume 147, je crois, verset 14. Il dit, je vais verrouiller les portes de ton territoire. Je ferai du bien à tes enfants. Il y aura toujours la paix dans ton territoire. Vous mangez les meilleures productions du pays. Je veux gagner ça. Mais on ne peut pas gagner ça avec des chrétiens de dimanche. Des gens qui viennent à l'église comme au cinéma. Il faut des gens qui sont en alliance. Et l'alliance, c'est un contrat. Si quelqu'un ne veut pas de contrat avec Dieu, qu'il ne vienne plus ici. Il se balade en croyant qu'il est dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est déjà là, mais on y rentre avec un contrat. Si quelqu'un ne veut pas de contrat avec Dieu, si quelqu'un n'est pas prêt à se mettre en garde, à se repentir, à faire la volonté de Dieu, nous ne sommes tous des pécheurs. Personne n'est parfait, nous péchons tous les jours. Mais on doit avoir l'envie, on doit avoir la rage, on doit être déterminé, on doit être en guerre contre soi-même pour pouvoir obéir à Dieu. Et là, on va voir dans votre vie. Les gens se demanderont, mais qu'est-ce qui se passe? C'est toi que je connais là? Comment tu as ça? Comment ça s'est passé? Tu vas dire, c'est Dieu qui a fait. Quand tu dis, c'est Dieu qui a fait là, ça vaut 10 campagnes d'évangélisation. Les gens te souffrent pour venir à ton église. À partir de janvier, moi j'ai un défi. Chaque membre du club doit amener 7 personnes ici par mois. Sans faire de campagne d'évangélisation. Il n'a pas besoin d'aller de maison en maison. Dans sa vie de tous les jours, il doit vivre d'une manière que les gens lui demandent qu'est-ce qui se passe. Et quand on demande qu'est-ce qui se passe, il doit savoir quoi dire pour que les gens viennent au salut. Est-ce que c'est compliqué qu'une personne amène 7 personnes? Pas à donner leur vie à Jésus. Ce n'est pas ça mon problème. Pas à changer de religion. Amenez-les seulement à venir écouter la réponse à leurs questions. Dieu nous a donné une notion. Moi, je rends grâce à Dieu, ça me fait même peur. S'il y a 100 personnes, je ne peux pas parler du Seigneur à 100 personnes et qu'au moins 90 personnes parlent de vie à Jésus. Quand j'étais à Ouaga, le Seigneur m'a interpellé, demandé à Hermione, c'est peut-être filmé. Il dit, mais je vous ai tout donné. Vous avez tout reçu. Vous avez l'onction. Vous avez la puissance. Vous avez tout. Qu'est-ce que vous attendez pour aller les sauver? Vous attendez quoi pour les réveiller? Vous attendez quoi pour les lancer? Qu'est-ce qu'il vous faut que je ne vous ai pas donné? Et c'est vrai. Vous imaginez quelqu'un qui, quand il parle, s'il y a 100 personnes, au moins 9 ou parfois la totalité dans leur vie à Jésus. Amenez-moi 7 personnes par mois. Et vous verrez le nombre de milliers de personnes qui vont entrer dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas amener 7 personnes ici et que plus de 5 ne restent pas. Impossible. La personne peut être carrée n'importe comment. Est-ce qu'il est difficile d'apporter les gens pour avoir une réponse aux questions? Quand les temps sont durs, les gens ont plein de questions sans réponse. Les gens sont dépassés. Est-ce que c'est compliqué d'obtenir qu'ils viennent essayer de voir qu'est-ce qui se passe? Mais si vous n'êtes même pas capable d'inviter des gens à venir voir pourquoi vous êtes heureux, vous n'êtes bon à rien. Quand le ciel perd sa saveur, on le jette. Excusez-moi d'être dur, mais Dieu est révolté contre nous, et je suis révolté contre vous. Nous devons être révoltés les uns contre les autres pour pouvoir obéir au Seigneur. C'est même pas la peine de se fatiguer à prier si on ne peut pas être en alliance avec Dieu. C'est ça que je veux que vous compreniez. Vous pouvez aller voir n'importe quel homme de Dieu, quel que soit son titre. Il vous impose les mains. Ça ne changera à rien. Vous n'avez pas remarqué? Faites un peu de statistiques. Donc, Jean, je crois, chapitre 9. Voilà, chapitre 9. On va lire le chapitre 9 du verset 1 à 13. Jean, chapitre 9, du verset 1 à 12, disons, 12. Écoutez bien.
Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui dirent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Quand ils étaient ouverts, il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Il menait vers les Pharisiens celui qui avait été aveugle.
Non, c'est bon, on s'arrête là. Alors, vous avez compris cette histoire. Un aveugle de naissance est présenté à Jésus. C'est-à-dire qu'il n'a jamais vu, c'est pas qu'il a perdu la vue. Il n'avait peut-être même pas de globe oculaire, n'en fait rien. Il n'a jamais vu. Il est présenté au Seigneur. Première étape, les disciples de Jésus demandent, est-ce que c'est par hasard parce que lui-même il a péché, ou est-ce que parce que ses parents péchaient qu'il est né aveugle? C'est une punition de Dieu. Et Jésus leur dit, en caricature, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont dues au péché, mais celle-là, ce n'est pas dû au péché. Ce n'est pas parce qu'il a péché ou parce que ses parents ont péché qu'il est né aveugle. Il est né aveugle parce que Dieu voulait que j'aie l'opportunité de le guérir pour glorifier le nom de Dieu. C'est pareil avec Lazare. Quand Lazare était malade, on a appelé Jésus. Jésus aurait pu très bien arriver là-bas et le soigner avant qu'il ne meure. Jésus a choisi d'attendre assez longtemps pour qu'il meure d'abord, qu'on le mette dans le tombeau et qu'il pourrisse pendant 4 jours. Parce que vous allez voir, vous allez des fois dans des maisons. Quelqu'un mort, vous priez pour lui se réveille. On dit certainement qu'il était dans le coma. C'est pour ça qu'il a fait réveiller quand il a prié. Ou bien, quand vous faites des miracles, comme ça, les gens vont vous dire. Ils vont commencer à chercher dans le rationnel des explications pour se dire que non, peut-être qu'il avait juste piqué une crise. Bon, peut-être qu'on a cru trop tôt qu'il était mort. Sinon, il ne se serait pas réveillé. Mais quand le gars a pourri pendant 4 jours, quand même, c'est un peu plus difficile de le dire. Donc, Jésus a pris 4 jours pour laisser le cadavre de Lazare bien pourri avant d'aller là-bas. Et il a dit quand il priait, Père, je ne parle pas pour que tu m'aides, je sais que tu m'aides toujours, mais je parle pour leur foi. C'est-à-dire que Jésus a fait exprès de laisser Lazare mourir pourri, pas parce qu'il fallait ou que Lazare méritait de mourir, mais parce que Dieu ne pouvait pas démontrer sa capacité de réveiller les morts si Lazare ne meurt pas. C'est pareil dans certains problèmes de votre vie. Vous avez des problèmes, des petits problèmes à régler pour Dieu. vous priez et Dieu ne répond pas. Ce n'est pas qu'il ne veut pas répondre. Ce n'est pas qu'il ne peut pas répondre. Il faut que le problème atteigne une certaine dimension. Que vous ayez l'impression d'être complètement englouti. Que le monde dise c'est fini pour lui, on peut oublier ça. Que le monde dise que maintenant c'est terminé. Quand à ce moment-là, maintenant le monde a dit que c'est terminé, Dieu a agi, on sait que vous avez un Dieu. Si vous êtes dans une voiture, vous roulez, il doit y avoir un accident, vous freinez, puis de manière miraculeuse, le véhicule s'arrête. Les gens disent que bon, il a eu la chance, son véhicule a de bons freins qu'on sort. Mais si vous n'arrivez pas à freiner, vous écrasez trois enfants, vous les traînez sur un kilomètre, on est sûr qu'on va les ramasser en bouillie. Les enfants se lèvent, ils n'ont pas de gratinu. On dit, mais là, ma outé annoncé. Quand Dieu laisse les choses pourrir, les hommes voient qu'il est Dieu. Dieu aurait pu les libérer d'Égypte par mille chemins. Ils auraient pu prendre le chemin qui les conduisait à Jéricho en quatre jours. Dieu leur fait prendre le chemin impossible. Il n'y a que la mer et il y a la mer derrière eux. Dieu n'ouvre même pas vite la mer. Il laisse la mer s'approcher parce qu'il voulait que la mer, le temps de rentrer dans la mer. On disait, mais où est Dieu? Pourquoi il nous envoie face à la mer? Dieu doit t'envoyer face à la mer pour avoir le loisir de démontrer qu'il est puissant devant la mer. Quand tes problèmes pourrissent, rends gloire à Dieu. Cela veut dire qu'il est en train d'honorer sa promesse qu'il te fera marcher dans le feu, mais que tu ne seras pas brûlé. Il n'a pas dit que tu pourrais marcher dans le feu. Il n'a pas dit que si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Il a dit, tu marcheras. Il a affirmé dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Un commando, un soldat, on l'envoie à la guerre. On lui crée des problèmes. Quand vous voyez les Américains, ils créent même des guerres même. Quand il n'y a pas de guerre, tout le monde prétend créer la guerre. Parce que c'est dans la guerre qu'on démontre sa force. Le Seigneur est en guerre contre Satan. Des fois même, il cherche le là Satan. Pour avoir l'occasion d'humilier Satan. Mais avec qui Dieu va chercher que là Satan pour l'humilier? Pharaon était tranquille. Il a fait des esclaves depuis longtemps. C'est Dieu qui a demandé à Moïse de lui chercher querelle pour le massacrer. Regardez, la Bible dit que c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon pour que Pharaon dise non. Ça veut dire que si tu n'étais pas Dieu, Pharaon aurait lâché prise depuis longtemps. Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour avoir le plaisir de le frapper, de ridiculiser tous les dieux païens. Parce que si vous regardez bien, les 10 plaies correspondent à 10 divinités païennes. Le soleil, la lune, le Nil, les consorts sont des dieux païens. Dieu a frappé à travers Pharaon les 10 plus grandes divinités païennes de l'Égypte. C'est comme si Dieu venait frapper Sakwata, Revioso et consorts. Il fait des démonstrations, les ridicules les unes après les autres. Il frappe Amiwata, il les frappe tous en série. Et dit, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça que Dieu a fait en Égypte. Il a frappé le soleil. Les gens l'ont adoré le soleil. Les gens adorent le soleil au Bénin, non? Il a dit, maintenant, soleil, éteins-toi. Comme il t'adore, quand tu reviens, on va voir. Personne n'a pu le réveiller. Ils adorent l'eau ici, non? Il a transformé l'eau en sang. Les écureuils de Mamie, attends, je ne sais pas où ils étaient, ils n'ont pas pu broncher. Et il faut se mettre dans les contextes pour voir comment Dieu aime l'ironie. Dans ta vie, dans ma vie, il y a des choses que Dieu laisse pourrir. Pas parce qu'il ne peut pas, parce qu'il joue. Il faut que ça pourrisse. Regardez les Abednego, les méchants qui consortent. Dieu aurait pu changer le cœur du roi, comme il a fait dans le cas de Esther consort. Avec Esther, il a empêché qu'on fasse du mal à Mardoché. Il aurait pu empêcher que le roi ait envie de mettre les méchants dans le feu. Il a eu envie qu'on les mette dans le feu. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que ce Dieu-là, on peut mettre des gens dans le four et puis ils sortent glacés. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc quand votre vie semble pourrie, si vous connaissez Dieu, vous lui obéissez, vous êtes en train de prier, ne vous inquiétez pas, c'est que Dieu a un scénario pour lequel il a besoin que ça pourrisse un peu plus. C'est là où il dit, rendez grâce à Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu ne peut pas vous abandonner, il n'agira jamais trop tard. Si vous êtes fidèle à Dieu qui vous abandonne, que vous périssez, c'est que Dieu est devenu infidèle. Ce n'est jamais arrivé. Si Dieu fait quelque chose, c'est parce que c'est le meilleur qui puisse vous arriver. Donc Dieu dit, ils n'ont pas péché, mais il est aveugle parce que Dieu a prévu ce jour où sa cécité va me permettre de démontrer que je suis le Dieu qui fait recourir la vue aux gens. Plus loin, on voit l'aveugle physique. Mais la Bible est une métaphore aussi. Ce n'est pas de l'aveugle physique seulement que Dieu parle. Dieu parle de tous ceux qui sont aveugles aujourd'hui, de tous ceux qui ne voient rien. Je n'ai pas de femme, je n'ai pas de mari, je ne sais pas comment en avoir. J'ai 40 ans, j'ai 45 ans, j'ai plein de diplômes, je suis femme émancipée, j'ai plein de copains, mais je n'ai pas de mari. Je ne vois pas pourquoi. C'est cette cécité-là que Dieu veut réveiller. Je suis un mari, je n'ai pas la main dans mon couple, la paix dans mon couple. Je fais tout, c'est toujours la guerre, c'est toujours les problèmes, c'est toujours les soucis. Je fais tout, je prends un travail, ça se perd. Je n'ai jamais l'argent. Tout ce que je fais échoue. Je n'ai jamais la paix. Mon enfant est tout le temps malade. Cette question-là prouve simplement quoi? Que ce qu'il faut savoir, vous ne le savez pas. Nous périssons faute de connaissances. Chacun de nos problèmes révèle une nécessité. Si tu sais comment régler un problème, tu ne l'auras pas. Si tu sais comment éviter un problème, tu ne l'auras pas. Si tu sais comment le régler, tu le feras partir. Si tu as un problème qui te fatigue, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. C'est que tu es aveugle de quelque chose. Ou bien, donc l'aveugle là, c'est nous tous. Aveugle de naissance. Nous naissons par le péché tous aveugles. Nous vivons, nous croyons que nous sommes grands, mais nous sommes tous des aveugles. Regardez sur ma face Facebook, on écrit des choses. Il y a des gens qui écrivent encore, Dieu n'existe pas. Dieu c'est chacun de nous. Dieu c'est l'amour. Puis ils écrivent des futilités comme ça. C'est là où Dieu nous rappelle que vous êtes en train là, vous avez la lumière, vous voyez. Mais vous oubliez qu'il y a des gens qui sont complètement aveugles. Allez leur ouvrir les yeux. Quand vous parlez de Dieu avec les gens, quand vous entendez les insanités qu'ils disent, vous voyez à quel point beaucoup de gens sont aveugles depuis leur naissance de la réalité et de la vérité. Les vérités les plus évidentes pour vous et moi, ils n'en savent rien, ils sont dans le noir complet. Et ils font même le malin pour soutenir des imbécilités. Tellement ils sont aveugles. Quand tu es aveugle, tu n'as jamais vu le soleil. Et tu fais des discours sur qu'est-ce que le soleil est. Voilà ce que nous avons dans le monde avec les gens qui ne connaissent pas Dieu. Des aveugles de naissance. Le monde qui ne connaît pas le Seigneur est aveugle des choses spirituelles. Nous devons leur donner la vue. Ils sont nés aveugles. Mais Jésus quand même a restauré sa vue. Si nous sommes le sel de la terre, parce que dans ce passage-là, Jésus dit aussi qu'il est la lumière du monde. Il dit qu'il faut travailler à sauver les gens pendant qu'il fait jour. Parce que l'heure viendra où il fera nuit. Et on ne peut pas travailler la nuit. Et il précise pour vous expliquer que lui, Jésus, il est actuellement la lumière dans le monde. Cela veut dire que quand il dit qu'il va faire nuit, c'est quand il ne sera pas là. Effectivement, ce n'était pas longtemps avant sa mort. Il veut dire, je suis là pour 3 ans et demi, je suis venu pour faire ministère, je suis dans le monde, donc il y a la lumière. Profitons du fait que je suis là pour sauver les gens, pour ouvrir la vie aux gens. Parce que quand je vais partir, tout redeviendra sombre. Et c'est vrai que quand la mort de Jésus est arrivée de cet esprit, tout était sombre. Il ne pouvait pas y avoir de miracle, d'évangélisation, de salut, rien. Mais c'était qu'une parenthèse. Il y a une nuit, il y a eu un jour, il y a eu une nuit, il y a eu un jour. Depuis la Genèse, Dieu avait prévu qu'après chaque nuit, le jour va se relever. Le jour où s'est relevé à la Pentecôte, le Saint-Esprit est arrivé. Et comme Jésus avait dit, vous ferez tout ce que j'ai fait encore plus. Allez jusqu'aux extrémités de la terre. Soyez des lumières que j'ai été. Quand le Saint-Esprit est arrivé, le jour s'est relevé. Et le Seigneur dit, le temps presse, le jour s'est levé. Travaillez, sauvez des gens, éclairez-les, ouvrez leurs yeux avant que la nuit ne tombe. Avant que votre nuit ne tombe. Chacun de nous a un temps à vivre. Quand vous laissez nouveau, si Dieu ne vous appelle pas au ciel immédiatement pour vous reposer, c'est parti de vous laisser là pour saler un peu le monde et pour éclairer un peu le monde. Pendant que vous êtes une lumière qui brille, avant que votre ampoule ne s'éteigne, éclairez le maximum de personnes. Salez le maximum de personnes. Salez le monde, éclairez le monde. Jésus dit, je suis la lumière du monde. La nuit va se lever. Travaillons, profitons de la journée. Profitons de ce que la lumière est là pour éclairer les gens. Ensuite, qu'est-ce que Jésus fait pour faire couvrir la vie à ce gars-là? Jésus crache. Comme si le crachat ne suffisait pas, il ajoute la boue. Il mélange le crachat et la boue. Dans tous les cas, le gars ne voit rien. Il ne pouvait pas trouver ça dégueulasse. Il n'a pas Dieu, il ne peut pas voir que c'est dégueulasse. Bien. Bon. Il ne peut pas trouver que c'est dégueulasse, non? Tu ne vois rien. Dans ce cas-là, c'est pour me fêter, tu ne sais pas. Il y a de l'ironie, hein, quand vous lisez la Bible. Mais des fois, je vais lire la Bible 5 minutes, tu prends, si quelqu'un ne te fait pas lever, tu ne peux pas te lever. Parce que quand tu as une bonne Bible, tu découvres à quel point la parole de Dieu est merveilleuse, il est extraordinaire. Il faut vraiment être aveugle pour dire que Dieu n'est rien. Mais c'est les aveugles des sens, pas la grâce de Dieu dans l'ordre de la vie, au nom de Jésus. Donc, Jésus prend son crachat, et il prend de la boue, et il en oint. Donc, ce n'est pas juste qu'il a mis, c'est une notion. Cela révèle qu'il y a un pouvoir, qu'il y a une transmission de vie, qu'il y a une transmission d'esprit. Il aurait pu dire, la Bible aurait pu dire, il a mis la boue sur ses yeux. On a dit, il a oint ses yeux de la boue. C'est d'onction qu'il s'agit. C'est de puissance du Saint-Esprit qu'il s'agit. Ce n'est pas juste de mettre la boue dans ses yeux. Il faut faire attention au mot dans la Bible. Il a oint Dieu, il a oint plutôt de sa boue là, faite avec son crachat et la boue, ses yeux. Et le gars n'a pas vu immédiatement. Hein. Il lui a demandé d'aller se laver dans le réservoir de Siloué. Le réservoir de Siloué, c'est une quantité d'eau, c'est un étang d'eau. Mais le mot Siloué veut dire à l'origine l'envoyer. Envoyer, c'est-à-dire partir, envoyer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque la Bible veut toujours nous passer un message à travers les paraboles. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus qui prend du crachat et de la boue? qui ennoie l'œil de quelqu'un et qui l'envoie se laver dans le réservoir qui s'appelle l'envoyé. Et c'est quand il va dans le réservoir qui s'appelle l'envoyé qu'il recouvre la vue. Première chose, nous sommes tous faits de boue. La Bible dit que nous sommes faits de poussière, que nous retournerons poussière. Ou bien, c'est la poussière que Dieu a fait, il a mis son souffle de vie dedans pour créer l'homme. Si je crache, demandez au médecin, dans mon crachat, il y a tous mes gènes, il y a mon patrimoine génétique. Le crachat, c'est un liquide qui sort de l'homme et qui est une miniature génétique de l'homme. Le crachat de Dieu, c'est l'eau qui sort de Dieu. C'est la vie. C'est l'eau de vie. C'est en même temps la parole. Le crachat de Dieu, c'est la substance de Dieu qui sort. Qui se mélange à quoi? À la boue, à la poussière. Qu'est-ce qu'un homme? C'est de la poussière qui a reçu le souffle de vie, qui a reçu l'esprit de vie. En prenant de la boue, ce que vous et moi nous sommes, en y mettant de son crachat, il a fabriqué l'homme. Il a donné à cet aveugle, il a donné à ce monde aveugle que représentait cet aveugle, un homme comme vous et moi, qui n'est rien d'autre que de la boue avec du crachat de Dieu. Mais un homme avec la boue et le crachat de Dieu, ça ne suffit pas pour voir. Il faut pour qu'il voit que aussi bien cet homme qui est la boue qui est maintenant dans les yeux du monde, quand vous êtes dans les yeux du monde, vous êtes la lumière. Parce que la Bible dit que nos yeux sont la lumière du corps. Ou bien, la Bible dit ça, non? Que l'œil de quelqu'un, c'est la lumière de son corps. D'accord? Quand on met la boue qui est une personne dans les yeux de l'aveugle, qui est le monde, cette personne devient quoi? La lumière du monde. La Bible dit que les yeux de quelqu'un sont la lumière de son corps. La boue et le crachat, c'est de ça que Dieu a fait l'homme. La poussière avec l'onction de Dieu. Mettre la boue et le crachat dans les yeux de quelqu'un, c'était prophétique de mettre l'homme dans le monde. Cet aveugle de naissance, c'est le monde qui est né dans le péché, qui est né dans l'ignorance, dans la cécité des choses de Dieu. Dieu met donc à la place de ces yeux qui n'existent pas, une personne banale. Il est fait de poussière de l'onction de Dieu. Vous remarquerez que cette personne n'a pas suffi à donner au monde la vue. Pour qu'il recouvre la vue, Dieu envoie cette personne-là, qui est dans les yeux du monde pour sa lumière, et le monde tout entier, il les envoie dans l'eau. L'eau de vie, l'eau du baptême, l'eau, les sources d'eau vive qui coulent du Saint-Esprit, l'eau, la parole. Dieu dit que vous et le monde, vous devez aller vous baigner ensemble dans la parole, dans le Saint-Esprit, pour recouvrer la vue. Vous, quel que soit qui vous êtes, quelle que soit votre banalité, quelle que soit votre vulgarité, même si vous n'êtes que du crachat de Dieu avec de la boue, d'être avec le monde, vous allez dans la parole de Dieu. Vous allez vous baigner, vous acceptez d'être envoyé dans la parole de Dieu. Quand vous vous baignez dans la parole de Dieu, vous allez voir et vous allez éclairer le monde. Parce qu'il aurait pu recouvrir la vie dès qu'il a mis la boue. Pourquoi il ne l'a pas recouvré? Il fallait qu'ensemble, ce mélange-là, le monde avec ses yeux, aille, accepte d'être envoyé. Parce qu'il a dit quelque part, quelque peu lit, il m'a dit, quand on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé, il a dit quoi? Il a dit, il m'a dit, va te baigner au réservoir de Siloé. J'y suis allé. La Bible ne dit rien par hasard. Quelqu'un peut me relire ça. Quelqu'un dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il m'a dit, va te baigner dans le réservoir de Siloé. Et il précise, il aurait pu s'arrêter là. J'y suis allé. C'est parce que quand Dieu a dit va dans le réservoir, va dans la parole, va dans l'onction, va dans le Saint-Esprit, c'est parce qu'il a accepté d'y aller qu'il a commencé à voir, qu'il a recouvré la vue avec tout ce qui en découle. Je ne sais pas si vous me suivez. Et quand ce miracle se produit, quand quelqu'un accepte de cette boue que le Seigneur met dans le monde, et qu'il est capable d'aller vers le monde dans la parole, afin de recouvrer la vue, afin d'être la lumière du monde, quelle est la réaction des gens? Est-ce que c'est la même personne? C'est l'aveugle de naissance là? Comment il fait pour voir? C'est pas possible. Certains disent c'est quand même lui. D'autres disent c'est pas lui. C'est ce qui est censé se produire si vous êtes une vraie lumière pour le monde. Quand on vous voit, quand on voit les gens que vous impactez, avant qu'il ait dit « je suis chrétien », on doit dire « c'est la même personne là ou c'est pas la même personne ». D'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette paix? D'où lui vient cette joie? D'où lui vient cette sérénité?
D'où le Dieu se calme. Comment se fait-il quand je pose des questions là, il répond, on dirait que vraiment il est vieux alors que c'est un jeune. Les rois, les vieux, les sages, les politiciens, on va dire, mais dans la famille là, le petit là, il a la sagesse, hein. Quand il y a quelqu'un, on a dit, allez voir tel. C'est le gars le plus éclairé de la maison. C'est le gars le plus éclairé de la famille. Est-ce que c'est le même là? Qui voit maintenant? Qui est éclairé maintenant? Qui a la sagesse maintenant? Qui a l'intelligence? C'est le même ou c'est quelqu'un d'autre? C'est à ça. Quand le monde dit ça, eh bien vous avez ouvert les yeux. Mais si vous avez ouvert les yeux, et les gens qui savent depuis votre naissance que vous êtes un aveugle, ne voient pas de différence, vous n'avez ouvert aucun œil. Est-ce que vous êtes un chrétien dont le monde, dont les voisins se demandent si vous êtes la même personne? Sinon, vous avez du boulot. Vous êtes encore lavé suffisamment dans le réservoir de Siloué. C'est la question. Et je continue. Après ça, je vais m'arrêter pour prendre des questions. On a encore un peu de temps. Regardez bien. Quand les gens commençaient à lui poser des questions, les gens lui ont demandé, mais qui t'a guéri? Il a dit, l'homme qu'on appelle Jésus. Ils lui ont posé encore une autre question. Il dit, je ne sais pas, quelqu'un n'a qu'à me relire la fin, s'il vous plaît. De Jean 9 au verset 5. Relisez-moi ça. Je veux que vous fassiez attention, après l'explication, à ce qui s'y est dit. Surtout à propos de « va, j'y suis allé » et de la réaction des gens sur lui. Jean 9. Oui.
Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais.
Parfait. Il y a même mieux. Va, lave-toi, purifie-toi dans le réservoir. Qu'est-ce que la parole? Une épée à double tranchant pour aller jusqu'à la jointure de la moelle et de l'os pour vous enlever les impuretés, pour vous laver. Qu'est-ce que la parole? Un miroir dans lequel vous êtes censé vous regarder, voir ce qui est bien, le garder, voir ce qui est mauvais et vous mettre en conformité. C'est pas ça la parole de Dieu? Se laver dans la parole de Dieu, c'est quoi? C'est écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique. Écouter la parole de Dieu et avec elle, en suivant son modèle, en suivant son canevas, se débarrasser de ses impuretés. Donc Jésus lui a dit, va, je t'envoie, te laver dans la parole. J'y suis allé. Est-ce que vous êtes parti depuis? Vous n'êtes pas parti, vous êtes surpris d'être toujours aveugle. Et vous faites des incantations avec les féticheurs, sous prétexte d'intercession, pour voir. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ce n'est pas la foi que de vouloir des miracles qui ne sont fondés sur aucune parole de Dieu. C'est du charlatanisme que d'imaginer que Dieu va faire comme on a envie. Dieu fait comme il a dit, pas comme il a envie. C'est ça le blocage de votre exaucement. Va te laver dans le réservoir de Siloé. J'y suis allé et je me suis lavé. Y êtes-vous allé? C'est comme l'histoire de Naaman avec Élisée. Va te laver cette fois. C'est tellement bête. Il dit non. Quand il s'est lavé, il n'a pas été guéri. Pourquoi ne voulez-vous pas aller laisser vos impuretés dans la parole de Dieu? Quand vous voyez que la parole de Dieu est trop dure, vous fuyez. Mais tu fuis l'eau qui va te laver. Tu ne recouvriras jamais la vue. Tu ne perdras jamais ta lèpre. Si tu fuis la parole de Dieu, si tu refuses d'aller prendre le bain de la parole de Dieu. J'y suis allé. Et quand on lui a demandé qui c'était, il dit l'homme qui s'appelle Jésus. Et on demande des précisions, il dit, je ne sais pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce gars-là n'a pas eu besoin d'être un expert de Jésus pour être en train de témoigner de Jésus. Les gars qui l'ont vu, ont vu la pauvre enfant avec que Jésus est puissant. Beaucoup d'entre eux, certains, parce qu'ils ont vu ça, vont commencer au moins dans la nuit à aller voir ce Jésus-là en cachette, à aller écouter qu'est-ce qu'il dit. Mais quand ils lui ont demandé l'explication, il dit l'homme qu'on appelle. Donc lui-même, il n'a pas d'expertise, il ne peut pas expliquer si, en quoi c'est Jésus. Il dit l'homme qu'on appelle Jésus. Il est factuel simplement. Comment il a fait? Moi, je ne sais pas. C'est ce que je vous dis. Vous n'avez pas besoin d'être évangéliste, d'être pasteur, d'être prophète pour être la lumière du monde. Vous n'avez pas dit, mais si je dis à mes collègues de venir à Jésus, ils me posent la question, comment je vais répondre? Ne leur demandez pas de venir à Jésus. Lui n'a pas demandé à quelqu'un de venir à Jésus. Les gens ont vu qu'il voyait alors qu'il ne voyait pas. Les gens ont dit, c'est toi. Il dit, c'est bien moi. Comment c'est possible? Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Comment il a fait? Moi, je ne sais pas, mais si vous voulez, je vous accompagne. Là où il a fait ça, on va vous en expliquer. Il ne faut pas plus que ça pour amener les gens au Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Il n'a pas dit, bon, Jésus, donne-moi des arguments. Quand les gens vont me voir en train de bien voir, ils vont poser des questions. Je vais leur expliquer la nouvelle naissance, la rédemption, le salut, le pouvoir, si, afin qu'ils viennent à toi. Non. Il a fait ce qu'on lui a dit de faire. Sa vie a démontré la puissance de Dieu. Première étape. Quand sa vie démontre la puissance de Dieu, le monde va demander comment ça s'est passé. Il n'aura qu'à dire simplement, j'ai rencontré quelqu'un, il s'appelle Jésus à ce qu'il paraît, je ne sais pas comment il a fait, voilà ça a marché. Si vous voulez, je vous amène mercredi prochain, vous allez écouter vous-même. Si vous voulez, je vous fais écouter un CD, vous allez écouter vous-même. Si vous voulez, je vous amène dimanche à 10h, vous allez écouter vous-même. Mais moi, je ne sais pas, mais je sais que le problème que je traînais depuis toujours là, quand ils ont appliqué leur affaire de Jésus là, ça a marché. Moi-même, je suis en train de comprendre, je peux te dire quelque chose, mais je ne sais pas plus que toi, mais je vois que ça marche. C'est difficile à faire. C'est difficile à faire. Mais ça commence par une vie qui a changé. Si vous êtes aveugle, vous êtes toujours aveugle, personne ne va vous poser des questions jusqu'à vous allez pouvoir répondre. Vous étiez triste, est-ce que maintenant vous avez la joie? Vous étiez arrogant, est-ce que maintenant vous êtes gentil? Si par exemple c'est toi qui, quand tu reviens le matin, tout le monde sait que dans ta maisonnée là, tu te disputes avec un de tes voisins tous les matins et vous vous battez avant que tu n'ailles au bureau. Il y a des gens comme ça. Quel matin tu ne te bats pas? Les gens disent peut-être qu'il dormait. Le lendemain tu ne te bats pas, on dit peut-être qu'il est fatigué. Si au bout d'une semaine tu te battais avec personne, les gens disent, le gars là il a voyagé ou bien il est toujours à la maison. On va dire toujours là, on va dire, ah, quelqu'un va te trouver mal, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire quoi? Tu ne te disputes plus. Tu vas pouvoir dire non, il faut laisser. Ça, c'est le monde. Fais rencontrer quelqu'un. J'ai une paix qui fait que tout ce qu'on faisait, c'était ridicule. Il va dire, ah bon, comment ça? Il va commencer à te poser des questions. Tu réponds à ce que tu peux. Et il faut témoigner du fond du cœur. On n'a pas besoin d'être un expert de la parole. Juste témoigner suffisamment pour que les gens soient curieux. Quand les gens sont curieux, suis-moi, on va y aller. Les Nicodèmes et consorts, qui étaient de grands dignitaires, des grands opposants à Jésus. Personne n'est pas, il n'y a pas de disciple de Jésus qui est parti les évangéliser. Quand Jésus a fait des miracles, ils ont vu les miracles de Jésus. Même si c'est la nuit, il est venu voir Jésus parce que le miracle suscite la curiosité. Si vous ne portez pas des fruits, si vous n'êtes pas un miracle de Dieu, vous n'allez jamais déclencher le processus par lequel vous serez tranquille, vous allez être un aimant pour la vie vers le Seigneur. C'est pour ça qu'il est important de porter des fruits. Lisez les fruits du Saint-Esprit, la joie, l'amour, le pardon, des choses comme ça. Vous devez les manifester. On doit sentir que vous êtes une autre personne. Ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement le pouvoir, dans tous les domaines, la santé, la joie, votre côté serviable. On doit sentir que ce gars-là, il est différent. Qu'est-ce qui s'est passé? Et dès que quelqu'un vous pose une question, ou dès que quelqu'un se plaint, j'ai rencontré quelqu'un qui fait des prouesses. J'ai encore des problèmes, mais il ne faut pas que je te mente. Mais au moins dans mes problèmes maintenant, j'ai la paix. Je dors. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne m'inquiète plus de rien. Et quand je ne m'inquiète plus de rien, j'ai vu que les choses se règlent elles-mêmes. Tu as dit, ah bon, comment toi tu fais? Avant, j'avais les maux de tête comme toi tout le temps. C'est tout le temps en train de boire Ferragan, Doliprane, Paracétamol, tout ça là. Je n'en prends plus. Comment tu fais? Tu dis ce que tu peux dire, le reste, suis-moi. C'est ça qui est le sel et la lumière du monde. Alors, des questions, il y avait des questions. Il y avait Chadaré, il y avait quelques questions. Allons-y avec les questions. Alors, c'est une excellente question qui me permet de mettre la limite du discernement dans les choses. L'idée qu'un responsable chrétien, pour ne pas dire religieux, se déplace dans un couvent de féticheurs, c'est une bonne chose. La Bible dit, je crois dans le livre des Proverbes, de ne pas s'arrêter sur le chemin des méchants. Il ne dit pas de ne pas fréquenter les méchants. Il y a une différence entre s'arrêter sur le chemin des méchants, c'est-à-dire aller chez eux et commencer à papoter avec eux, commencer à faire comme eux, commencer à trouver normal ce qu'ils font, et le fait de fréquenter des méchants. Qu'un responsable chrétien aille dans un couvent est une bonne chose. S'il va là-bas dire, je vous aime, mais voilà la vérité, vous êtes dans l'erreur. Paul est parti à Athènes. Il a d'abord visité tous leurs fétiches et tous leurs dieux. Donc il a été. Mais pour pouvoir le faire après le fameux discours d'Athènes, où il leur a dit, tout cela ne vaut rien, seul Jésus peut vous sauver. Jean-Paul n'a jamais eu le courage de dire dans un couvent qu'ils sont dans l'erreur. Le discours œcuménique est un discours qui dit, nous sommes tous les mêmes, Dieu est partout, que chacun fasse comme il peut, ce n'est pas grave pour Dieu. C'est nos divergences qui font la complémentarité. C'est un piège de Satan, il y a une subtilité là. Oui, c'est pour ça qu'on dit, comme vous disiez, Apocalypse 3, tout excès est mauvais. L'excès qui consiste à dire, comme les évangéliques, je ne vais pas m'approcher des païens, est mauvais. Dieu n'a pas dit de ne pas fréquenter les païens. Paul est l'apôtre des païens. Pierre a été envoyé à Corneille. Il faut aller vers les païens. Mais Pierre n'est pas parti chez Corneille. Il dit que tout ce que Corneille fait est bon, on n'a qu'à faire la fête, ce n'est pas grave, c'est le même Dieu qui nous anime tous. Paul n'est pas parti à Athènes, dit que tout leur Dieu l'a fait pareil, leur Dieu l'a fait quand même Jésus, ce n'est pas grave. Donc il faut aller vers les païens pour, après avoir témoigné de l'amour, avoir l'occasion de leur dire, ça là, ce n'est pas le plan de Dieu. Vous êtes dans l'erreur. Je vous aime, je ne vous juge pas. Je ne vous demande pas de changer, mais j'ai le devoir, par amour. La Bible dit, si ton frère est dans l'erreur, reprends-le. J'ai le devoir de vous dire que ça, c'est faux. Évidemment, avec douceur, avec sagesse. Donc, il ne faut ni être comme les évangéliques qui méprisent le monde, ni hélas être comme les catholiques qui vont au monde pour leur dire, embrassez-moi, il n'y a pas de problème, couvent, fétiche, c'est la même chose, c'est vous qui avez construit la cathédrale, nous sommes tous les mêmes. Il n'y a pas de même entre un féticheur, entre un païen, entre les esprits de Python et Jésus. Mais il faut aller dans les couvents de Python, leur dire, je vous aime, ce que vous faites là, il n'y a rien dedans, venez au Seigneur. Donc si moi, on m'invite dans un couvent, j'irai. On m'invite dans une mosquée, j'irai. Mais je n'irai pas leur dire que tout va bien, j'irai leur dire que je les aime suffisamment pour risquer de venir leur dire que ça là, on peut faire mieux. Vous voyez la différence entre les deux? Parfait. Oui?
Bénis l'Éternel pour votre vie.
Amen. Je vous rends grâce.
Ma préoccupation est celle-ci. Tout à l'heure, avant que vous ne commenciez véritablement, vous disiez que dans l'église aujourd'hui, beaucoup de personnes ne font que prier, jeûner, passent d'église en église quand il y a des veillées ou autres, mais que leur situation souvent ne change pas. Et qu'il faut véritablement rechercher la vérité, suivre Jésus selon ses prescriptions pour s'en sortir, si je me comprends.
Et bien ça?
Je voudrais savoir, est-ce qu'une fois Jésus accepté et qu'on suit ses recommandations, est-ce plus nécessaire, n'est-ce pas, de beaucoup jeûner, de prier?
Éveil 58, s'il vous plaît. On va lire Éveil 58. Sur le jeûne, d'abord. Et on va lire après Matthieu 6, 7 sur la prière. Éveil 58. On y va.
Crie à plein gosier et ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu nies à point égard? Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Vous frappez méchamment de poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en
alors,
lui.
Alors, première, on va faire une pause. Je commence déjà ça. Vous allez voir verset 2, il dit, tous les jours, il me cherche. Il veut connaître mes voix comme une nation qui aurait pratiqué la justice. C'est-à-dire que déjà au verset 2, là où Isaïe décrit le jeûne, Dieu dit, ils font comme s'ils obéissaient à mes lois. C'est-à-dire la première condition, pour que même Dieu regarde tout le reste, je nous consors, c'est est-ce que vous pratiquez la justice? Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toute chose vous sera donnée par sur quoi? Je veux dire que, même si quelque chose est bien, et on va le voir par la suite, si vous n'obéissez pas à Dieu, ce n'est pas la peine de le faire. Il dit, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Le jeûne est un sacrifice. La prière est un sacrifice. Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que tout ça. Tout le monde parle de prière, tout le monde parle de jeûne. Personne ne parle du sacrifice qui vaut mieux que tout. Le sacrifice qui vaut mieux que tout, qui est non négociable. Et vous ne trouverez jamais rien dans la Bible qui vous donnera l'impression qu'un échappatoire à l'obéissance, c'est l'obéissance. Donc, c'est ce que dit la première partie. Dieu dit, il se fout de moi, il jeûne. Maintenant, puisque vous voulez jeûner, voilà le jeûne auquel je prends plaisir. Allons-y. Dieu est trop doux, hein, il faut lire ça.
Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme?
Un jour où l'homme humilie son âme. On continue.
La tête comme un jonc,
il veut
et
pas
se
faire.
Coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que j'appellerais un jeûne?
Donc tout ça là, il dit que ce n'est pas la peine.
Un jour agréable à l'Éternel, voici le jeûne auquel je prends plaisir.
Tout ce qu'il a dit là, c'est ce qui est mauvais. Or, tout ce qu'il a dit, c'est ce qu'on fait. On est d'accord? Parfait. On continue maintenant. Voilà le jeûne auquel il prend plaisir. On continue.
Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim.
Point.
Et fais entrer.
Un instant. La première partie, c'est globalement encore le bon de commande d'Ésaïe 61. Fais le bien, sois lumière, libère le premier consort. C'est-à-dire qu'avant même de jeûner, ou si le jeûne pour toi, c'est quoi? C'est un sacrifice. Si tu veux passer du temps à te sacrifier pour Dieu, passe du temps à être le sel et la lumière du monde, à libérer les opprimés, à libérer les captifs. Regardez les choses qu'il a dit dans Ésaïe 61 et là. Ça se ressemble. Donc, jeûner serait faire l'effort d'être, au moins dans la période de votre jeûne, un vrai sel et une vraie lumière. Vous n'y pensez jamais. Maintenant, il dit, partagez ton pain avec la famille. Partagez ton pain avec la famille. Comment on fait pour partager du pain en ne mangeant pas? Quand on dit de partager ton repas avec quelqu'un, c'est que tu es au repas, non? Si je décide que je suis à jeûne, je fais jeûne de 7 jours, de 21 jours, de 41 jours, de 100 jours. 7 jours-là, je ne prépare pas, non? Ou bien, comment je fais? On n'a pas dit donne ton pain à celui qui a faim. Là, ils vont me dire que Dieu a dit de préparer, de ne pas me donner aux autres. Il dit partage. La notion de partage, c'est que tu prends un peu, je prends un peu, non? Ou bien, ce n'est pas français. Comment le jour du jeûne, où les hommes disent qu'il ne faut pas manger, Dieu nous dit dans sa parole qu'il faut manger avec les autres. Et nulle part, vous ne verrez, dans Ésaïe 58, Dieu dit que le jour du jeûne, il ne faut pas manger. Il ne faut pas boire. Et qu'il faut faire régime. Il dit qu'il faut partager, il faut manger ce jour-là avec les autres. Et de ce point de vue, le jeûne tel qu'il est conçu par les catholiques est plus conforme à la parole que le jeûne tel qu'il est conçu par les évangéliques. Il faut qu'on se dise la vérité, ce n'est pas affaire d'évangélique de catholique, c'est la parole. Le jeûne évangélique ne correspond à rien dans la Bible. Merci Eric, on va continuer.
Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile.
Le bon de commande de Dieu. On continue.
Si tu vois un homme nu, ouvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi.
Ta justice, ton obéissance marcheront devant toi. C'est ça qui t'ouvrira les portes, pas ton ventre qui a faim. On continue.
Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera.
Bon, point. Alors, où est-ce qu'il a dit qu'il ne faut pas manger dedans? Dans le jeûne auquel il prend plaisir. Et qu'il faut faire des compétitions de moi. J'ai fait 7 jours de jeûne sec. C'est écrit où? C'est écrit où? De la prétention, de l'orgueil spirituel. Dieu n'a rien à cirer de ce que vous mettez dans votre ventre ou pas. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, le peuple jeûne quand? Quand il a tellement péché, quand il a fait tellement d'abominations qu'il s'est éloigné de Dieu. Et Dieu a envie de frapper. Ouvrez-moi en même temps Matthieu 6, là où on parle de la prière. Et Dieu veut les frapper. Dieu dit, je vais vous frapper. On dit, ils se couvrent de sang. Ils se mettent en jeûne. Ils se mettent en jeûne, ça veut dire quoi? Ils font attention. Ils s'éloignent de la méchanceté. Ils s'éloignent de l'iniquité. Ils reviennent à la justice. C'est ça le jeûne. Évidemment, comme en général, c'est des pays où, quand on mange, mais comme on le voit là, ils se goinfent, ils mangent, ils font des orgies. À ce moment où Dieu veut frapper, ils n'ont même plus faim. Ils ont tellement de soucis parce que le Dieu dont on parlait là, ce n'est pas Dieu de Jésus qui fait grâce. Hein? Quand il veut frapper là, c'est comme Sodome et Gomorrhe, le feu tombe. Donc quand on te dit que dans ta ville là, demain tu vas brûler, tu n'as pas faim. Tu ne peux pas avoir faim. C'est pour ça que parfois on ne mangeait pas. Mais il n'y a rien qui dit que le jour du jeûne, Dieu a dit de ne pas manger, de compter le nombre de jours pendant lesquels on arrive à trouver qu'on est capable de ne pas manger. Il a dit partage ton pain. Fais bien manger, fais du bien. les jours où tu veux jeûner. Si tu veux jeûner, prier, ça veut dire qu'il faut obéir à Dieu et prier. Pendant que tu pries, obéis beaucoup à Dieu. Fais beaucoup de bien. Évangélise beaucoup de gens. Sois le sel, sois la lumière. Fais la justice. Libère les opprimés. Aide les pauvres. Fais du bien aux gens. C'est ça ton jeûne. Comme tu n'es pas capable de faire tous les jours, si tu veux déclarer 7 jours de jeûne, 7 jours d'obéissance à Dieu. Si tu veux déclarer 41 jours, 41 jours d'obéissance à Dieu. Si tu veux déclarer 1000 jours, fais 1000 jours d'obéissance à Dieu. Laisse la nourriture tranquille. Vous ne lisez pas la Bible, mais c'est à quelle langue que vous la lisez. Maintenant, pourquoi est-ce que parfois on peut jeûner et ne pas manger? Le corps est une prison pour l'esprit. Et le corps, la chair est l'ennemi de l'esprit. Si vous mangez trop, vous êtes lourd, vous avez sommeil. Vous buvez trop, vous êtes sous, vous n'êtes bon à rien. Comme la plupart des gens ne sont pas capables d'obéir tous les jours au commandement, c'est ça aussi la loi. Ne faites pas d'excès de table. Celui qui ne fait pas d'excès de table, qui mange comme par exemple Jean-Baptiste, il a besoin de jeûner. Il mange du miel et des sauterelles chaque jour. Et quand il se pose de nourriture, il s'est pourri de quoi? Il ne mangeait déjà pas. Celui qui mange modestement, qui ne fait d'excès en rien, il est en forme tous les jours, il n'a pas de surpoids, il n'est pas gros, il n'est pas lourd. Il peut prier tous les jours sans problème. Mais si toi, quand tu t'assois, tu dois manger la moitié du porc tout entier, avec tout le bail, le pété qu'on a fait dessus, et que c'est seulement comme ça que tu manges, t'es sûr que tu finis de manger comme ça, pendant une semaine, tu es amorti comme un boa qui a mangé un bœuf. Donc tu ne peux pas prier. Le temps que ça sort de ton organisme, tu es déjà parti manger, gotte à quelque part. Le temps que ça sort de ton organisme, quand tu vis comme ça là, la Bible dit que tu enlises ta vie dans le sommeil et la nourriture. Tu ne pourras jamais prier. Quand tu arrives à ce niveau de désobéissance à la loi, de manger modérément, tu peux décider en obéissance à la loi de ne pas manger n'importe quoi, de ne pas faire d'excès de table, de décider que cette période-là, je fais un peu ce qu'on appelle médicalement une diète. Je ne mange plus n'importe quoi, je me contente des fruits, j'essaie un peu d'assainir mon alimentation et d'arrêter de manger n'importe quoi. C'est ça la parole de Dieu. Vous ne voyez pas que les gens jeûnent, n'ont rien, mais c'est moi seul qui vois la chose. Que les hommes de Dieu ne savent pas quoi dire à quelqu'un qui a des problèmes. 2 jours de jeûne, ça n'a pas réglé le problème. Bon, passe à 5 jours. Bon, comme ça n'a pas réglé, bon, on va carrément décréter 21 jours de jeûne. Comme si les jeûnes étaient des comprimés de paracétamol qu'on distribue en quantité. La quantité de votre jeûne ne change rien. La preuve, Matthieu 6. Il y a quelque part dans Matthieu 6, quelqu'un me retrouve ça. Matthieu 6, verset 7, lisez-moi ça. Non, avant ça, il y a quelque part où les disciples de Jean-Baptiste ont demandé à Jésus. Non, les disciples de Jésus lui ont demandé. Les disciples de Jean-Baptiste jeûnent et prient. Donc ça doit être plutôt les pharisiens ou quelqu'un qui demandait ça à Jésus. Pourquoi les disciples, je ne sais pas si c'était dans Matthieu 6 ou dans Matthieu 7, pourquoi tes disciples à toi ne jeûnent pas? Que quelqu'un me trouve ça, ça doit être dans Matthieu. Peut-être un peu avant le 7. Quelqu'un a trouvé? C'est toujours dans Matthieu, ça doit être au 6, au 5 ou au 7. Les disciples de Jean-Baptiste jeûne. Pourquoi les tiens ne jeûnent pas? Matthieu 9, 14, hein? Parfait, Matthieu 9, 14. Alors, dans Matthieu 9, 14, on a... Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nouaient les pharisiens? Eux, les disciples de Jean-Baptiste, là, donc, les anciens, il n'y a pas pour rien que Jésus dit que Jean-Baptiste est le plus grand. Mais le plus petit, dernier de nouveau, est plus grand que Jean-Baptiste. On en a la preuve ici. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens nous jeûnons, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Je vous le répète, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Cela veut dire quoi? Comme je viens de le dire, le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est le jeûne qui consiste à se séparer du péché. C'est le jeûne qui consiste à se forcer à obéir à Dieu parce qu'on lui a désobéi. C'est le jeûne qui consiste à obéir enfin à Dieu pour se reconnecter à lui. Or, si le maître est avec eux, si Jésus est avec eux, c'est que Dieu est avec eux. Donc Dieu n'est pas loin d'eux. Ils ne sont pas dans la situation de l'Ancien Testament où à un moment, Dieu s'éloigne de son peuple et disait, je vais vous détruire. Là, Dieu au milieu d'eux, il est en train de parler avec eux, de marcher avec eux, de manger avec eux. Ils vont jeûner pourquoi? Pour se reconnecter à qui? Alors qu'il est là au milieu d'eux. C'est pour ça dire, est-ce que les amis de l'époux jeûne quand l'époux est là. Pourquoi on va jeûner quand Jésus est en nous? Si nous vivons parce qu'il est en nous en lui obéissant. Si nous lui obéissons, que nous sommes vraiment en alliance avec lui, que nous sommes connectés à lui, pourquoi allons-nous jeûner? Notre vie toute entière obéissance. En réalité, si je dois caricaturer, le jeûne, c'est une opération coup de poing de forcing qu'on essaie de faire pour recommencer à obéir à Dieu. Si tu t'es éloigné de Dieu pendant longtemps, il est normal que tu fasses une opération de forcing pour te reconnecter à lui par l'obéissance. Mais tu n'es pas censé faire ça tous les jours. Si tu jeûnes tous les jours, ça veut dire que tous les jours, tu t'es déconnecté tellement de Dieu que tu es obligé de refaire du forcing pour te connecter. C'est comme les régimes. Au lieu de manger sainement tout le temps, on mange n'importe comment, on prend 100 kilos et on décide pendant 3 mois de ne rien manger, de faire du régime. On perd du kilo. Mais dès qu'on arrête le régime, on regrossit. Et ils font ça toute leur vie. Finalement, ils sont malades. On ne doit pas jeûner comme ça. Si Christ est vraiment en toi, si tu es né de nouveau, tous les jours, tu obéis à Dieu. Donc, Dieu est en toi. Il n'est plus loin de toi. L'époux est là en toi. Il vit en toi. Tu vis par lui. Tu n'as pas besoin de jeûner pour te reconnecter à lui. Parce que toute ta vie est obéissance. Il dit, ta justice marchera devant toi. Si tu es juste avec Dieu, si tu obéis à Dieu, si tu fais ce sacrifice d'obéissance, tu n'as pas besoin de jeûner à longueur de journée. Mais regarde dans nos églises, personne n'obéit à Dieu. Donc quand on dit jeûner, c'est peut-être qu'il veut que les gens obéissent pour une fois. Mais ce n'est pas ce que les gens font, ils ne mangent pas. Et quoi que parce qu'ils n'ont pas mangé, Dieu va les bénir. C'est une doctrine satanique, ce jeûne-là. Ça distrait les gens de l'essentiel. Au lieu de les ramener à la croix, au lieu de les ramener à la parole de Dieu, qu'ils obéissent pour être bénis. Je dis, vous avez des oreilles pour entendre, vous n'entendez pas. De peur de comprendre et d'obéir pour que je puisse vous bénir. Ces fausses doctrines visent à éloigner les gens de la vérité, qui est l'obéissance. Donc ils passent leur temps à ne pas manger, ils croient qu'ils sont en train de plaire à Dieu. Oh, Dieu dit, je m'en fous de ça. Vous faites de l'iniquité, vous dites que vous jeûnez. Est-ce ça ce que je vous demande? Ce n'est pas écrit. Pourquoi on gêne tant que ça? Moi, je ne gêne presque jamais. Et Dieu m'exauce pour beaucoup de gens qui jeûnent tous les jours. Oui. Au début de son ministère, vous l'avez vu jeûner combien de fois? Il a jeûné une seule fois au début de son ministère. Jusqu'à 30 ans, il était homme. Dans ce qu'il y a de plus ordinaire, simple charpentier. Quand il a voulu se connecter à son père, commencer son ministère, recevoir le Saint-Esprit, d'abord c'est quand il a reçu le Saint-Esprit, il veut se détacher de sa nature charnelle, passer dans la dimension du Dieu glorieux. Il est parti jeûner pour se connecter à Dieu. Mais vous l'avez vu jeûner après? Vous l'avez vu jeûner après? Quand la tentation arrivait dans Jésus, Gethsémané, a dit que Jésus a jeûné avant d'aller à la croix. Là où les gens ont truqué la Bible, ils disent que Jésus a dit que ce genre d'esprit mauvais ne part qu'avec le jeûne et la prière. Heureusement, beaucoup de versions de la Bible disent que cette phrase a été ajoutée par la suite. Quand Jésus aurait dit, ce qui est faux, parce que toutes les versions ne le disent pas, que cette forme d'esprit ne part qu'avec le jeûne et la prière, est-ce que Jésus est parti jeûner d'abord avant de chasser l'esprit? Il est resté là sur place, il a chassé l'esprit, non? Ou bien? Est-ce que dans la Bible, Jésus était parti jeûner avant de venir chasser l'esprit? Ça veut dire que Jésus se serait contredit. Vous avez un problème, vous n'arrivez pas à le faire. Et je vous dis qu'il faut jeûner. Et moi, je le fais sans jeûner. Vous prenez Jésus pour un incohérent. Jésus a d'abord dit, c'est parce que vous êtes méchant. C'est parce que vous n'avez pas de foi qu'on n'a pas pu le chasser. Ou bien, et ils ont ajouté après pour justifier le jeûne, ce sort d'esprit ne part que par le jeûne à prier. Et Jésus n'est pas parti jeûner, n'est pas parti prier, et il a chassé l'esprit, non? Ou bien? Je mens ou bien c'est écrit? Donc, vous allez voir, toujours dans, je crois, Matthieu, au verset 16, on dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme des hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret, tu le rendras. Quand on décrète à l'église jeûne de tout le monde, puis tout le monde dit, ah, je n'ai pas mangé, je me sens un peu faible, et puis tout le monde fait tout pour montrer alors qu'ils ont mangé toute la journée, qu'ils sont en train de jeûner là. Vous laissez la comédie. Et quand on parle tout à l'heure de lampe, vous allez voir verset 22 de Matthieu 6, c'est écrit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Avec la parabole tout à l'heure dans Jean 9 au verset 5. En lui mettant la boue, Dieu lui a donné un œil. Vous, l'œil est la lampe du corps. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes l'œil du monde. Puisque l'œil est la lampe du corps, la lumière est la lampe du monde. Vous êtes l'œil. L'homme fait de boue et de l'esprit de Dieu. Fait du crachat de Dieu et de la poussière. C'est ça que Dieu a donné au monde. En lui disant, je t'envoie, va dans la parole, tu vas recouvrir la vue. Tout est écrit. Il faut obéir à la parole. C'est-à-dire que nous avons tellement pris l'habitude de ne pas obéir à la parole que des fois nous disons que il doit bien avoir une formule pour échapper à tout ce qu'on fait là. Il n'y a rien. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Oui.
Le fait de jeûner sans rien manger là, donc c'est une mauvaise chose. C'est ça que vous...
Dieu ne vous a pas demandé ça. Si parce que vous êtes un trop grand mangeur que vous dormez toute la journée, vous décidez pour prendre de bonnes habitudes pendant un jour, deux jours, trois jours, ne pas beaucoup manger, tant mieux. C'est une mesure comme les autres pour améliorer votre discipline alimentaire, pour mieux respecter le principe qu'il ne faut pas faire d'excès de table. Vous pouvez faire violence de vous-même pour essayer d'obéir à la norme avant de normaliser les choses. Mais nulle part dans la Bible, Dieu ne dit que pour qu'il nous exauce, il faut qu'on ne mange pas pendant beaucoup de jours. Si quelqu'un voit ça quelque part, qu'il me montre. Bien au contraire, c'est comme la question de Marie. Le gars, excusez-moi de dire ça, de Dieu dit, vous faites ci, vous jeûnez, visage abattu, vous faites le malin alors que vous êtes dans l'iniquité. Est-ce que c'est ça que je vous ai demandé? Voilà ce que je vous ai demandé. Ce qu'il a demandé est clair. D'où il sort de faire tout ce qu'il a refusé, au lieu de faire ce qu'il a dit, voilà ce que je vous demande. On est chrétien pour obéir à la parole, pas pour faire ce qu'on trouve normal. La norme, c'est la parole. C'est pour ça qu'on dit catholique, évangélique. Il y a des choses qu'on reproche aux catholiques, mais les évangéliques n'obéissent pas aussi entièrement à la parole. Le jeûne, la foutaise des jeûnes pour tout et rien, ne correspond à rien de biblique. C'est un échappatoire d'homme de Dieu, ne sache pas quoi proposer aux gens. Oui. Est-ce qu'ils ont dit qu'il n'a pas mangé? Quand on a dit qu'il a jeûné, il a prié, on vous a dit qu'il n'a pas mangé. Je viens de vous dire que tel que Dieu a décrit le jeûne, et la Bible est cohérente, jeûner veut dire faire le bien, libérer les opprimés, partager son pain avec les autres. Actes nous prouvent qu'ils ont passé leur temps à organiser le partage de pain dans la communauté, non? Ils ont passé leur temps à s'assurer qu'il y a du bien, non? Que les plus pauvres soient soulagés, non? Que personne n'en ait tellement qu'il en gaspille et que quelqu'un n'en manque pas, non? Si on revoit la définition que Ésaïe s'est quand donné du jeûne, c'est du jeûne ça, non? Mais où est-ce que la Bible dit dans Actes que Paul n'a pas mangé pendant 7 jours pour prier? Quand la Bible dit que quelqu'un a jeûné là, où est-ce que la Bible a dit que c'est qu'il n'a pas mangé? Alors que la même Bible dit que le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est de partager son pain. C'est une conception religieuse que de dire jeûne veut dire ne pas manger. Mais où est-ce qu'il est écrit dans la Bible que tel n'a pas mangé pendant 7 jours, pendant 40 jours? Oui. Je ne dis pas de ne jamais jeûner, hein. Le Saint-Esprit peut vous conduire ponctuellement à vous couper du monde. Par exemple, Moïse, 40 jours sur la montée avec le Seigneur. Jésus, 40 jours dans le désert. On dit, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Dieu peut amener n'importe qui, n'importe où, et lui demander des choses ponctuelles. Il a demandé à lui d'aller quelque part, d'attendre les corbeaux. Dieu, dans sa souveraineté, peut vous faire faire ce qu'il veut quand il veut. Vous pouvez recevoir la conviction du Saint-Esprit que, ah, pendant 2 jours, pendant 3 jours, je ne vais pas manger pour me concentrer. C'est un choix. Mais ce que je refuse, c'est le fétichisme. Aujourd'hui, le jeûne est devenu une idole. Les gens prêtent au jeûne des pouvoirs de bénédiction. Comme si le jeûne était un esprit qui, quand on l'adore, donne la vie. Le jeûne n'est pas un esprit, le jeûne n'a aucune valeur spirituelle. On n'invoque pas le jeûne. Jeûner, ce n'est pas ça qui va vous faire exaucer. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est le jeûne où la justice marche devant toi. De ce point de vue, un chrétien doit jeûner tous les jours de sa vie. Ce qu'elle a décrit dans le jeûne auquel Dieu prend plaisir, là, on doit faire ça tous les jours. Ou bien, alors, 3 jours c'est peu, 7 jours c'est peu, il faut faire ça tous les jours. Oui?
Dieu nous assiste.
Amen.
Alors, je suis parfaitement et totalement d'accord avec vous. Et il y a quelqu'un qui a demandé tout à l'heure, pourquoi tu as quand même dit, Jésus a quand même dit, on a quand même dit dans la Bible, qu'il faut jeûner pour pouvoir chasser les mauvais esprits. Alors, je peux dire que j'ai l'impression que la réponse qu'on a servie à la personne, c'est que la personne ne va pas voir l'importance de ce que l'important de la réponse. En fait, c'est quoi? Il faudrait que nous allions voir en même temps la définition du jeûne. Parce que si on dit avant de chasser les mauvais esprits, il faut jeûner d'abord, C'est-à-dire, il faut savoir partager son pain avec ses amis, ses collègues, avant de pouvoir chasser les mauvais esprits. Il faut savoir exécuter le bon de commande de Dieu avant de pouvoir chasser les mauvais esprits. Ce n'est pas qu'il faut rester à jeûne.
Vous avez tout à fait raison. Et tout est... Qu'est-ce qu'on met dans le mot jeûne? Merci Justin. Alors, je vais prendre une dernière question parce que maintenant je veux qu'on arrête tôt. Il est déjà 21h45. Je prends la dernière question et on va conclure. Dans tous les cas, quoi que je vais dire là, chaque fois que vous direz des vérités qui contredisent ce que les pharisiens disent, ils vous persécuteront. Et si le maître a été persécuté, il n'y a pas de raison que les disciples ne le soient pas. Voilà ce que j'ai dit assez clair. Ceux qui veulent comprendre ont compris. Si quelqu'un veut jeûner et se percer l'estomac à force de ne pas manger, c'est son problème dans tous les cas, moi ça ne m'enlève rien. Mais une chose est certaine, prescrire à quelqu'un le jeûne n'a aucune vertu spirituelle, à moins que nous entendions bien le jeûne comme le fait d'obéir à Dieu. Or, voyez-vous, je n'ai jamais parlé dans cette salle sans que si on résume bien, les trois quarts de ce que je dis ne reviennent à obéir. Si vous regardez bien, le message du club Jésus pour réussir, c'est obéir à Dieu pour réussir. Donc, quand, pour moi, obéir à Dieu est le fondement de la foi, je ne vois pas pourquoi j'irais demander à quelqu'un de jeûner. De même que quand quelqu'un est avec Jésus, je ne vois pas pourquoi, comme Jésus le dit, il devrait jeûner. Obéissez à Dieu tous les jours. Vous savez, Jésus nous dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Celui qui obéit à Dieu, dans le sens chrétien du terme, a dépassé le jeûne. Le jeûne est pour des gens qui, n'ayant pas le Saint-Esprit, s'éloignaient constamment de Dieu. Dieu les a bénis. Ils ont dit, oui, Dieu est grand, il a ouvert la mer Rouge. Quelques temps après, comme ils étaient sous la loi de la mort, sous la loi de Satan, sous la loi du péché, le péché était plus fort qu'eux. Ils oubliaient Dieu, ils s'éloignaient de Dieu. Moïse a fait 40 jours, ça suffit pour qu'ils fassent des idoles. Et regardez l'histoire d'Israël. Rapprochement avec Dieu, éloignement de Dieu. Rapprochement avec Dieu, éloignement de Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Vous et moi, nous avons une chance. Le Saint-Esprit nous convainc de péché. Quand tu en es de nouveau, quand le Saint-Esprit est en toi, quand tu veux commettre un péché, ta conscience te dérange. Le Saint-Esprit siffle rouge. Tu peux pécher si tu veux, mais ta conscience te dit que ce n'est pas normal. Si tu veux te prostituer, ta conscience te dit que ce n'est pas normal. Tu veux mentir, ta conscience te dit, mais tu viens de mentir. Le Saint-Esprit te guide et t'aide en sifflant chaque fois que tu déconnes pour que tu te reprennes. Dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne les arrêtait pas. Peut-être que s'il y avait le Saint-Esprit, David n'aurait pas commis le péché avec Bathsheba, parce que le Saint-Esprit l'aurait convaincu. Et pour qui connaît David, il est très sensible à la voix de Dieu. Mais le Saint-Esprit n'était pas là pour le convaincre du péché. Il avait commis le péché avant que cela ne soit possible. Comme ils n'avaient pas le Saint-Esprit, pour les convaincre de péché, pour les empêcher de pécher, pour leur donner l'autorité sur la mort, parce que la vie est venue entre-temps, ils s'éloignaient souvent de Dieu. Et il fallait que par forcing, ils se reconnectent. Mais vous êtes sous la loi de la vie. Christ a vaincu pas les péchés, la nature de péché en vous. Vous avez la faculté de marcher dans la justice. Christ est en vous. Vous êtes conduit par l'Esprit. Pourquoi allez-vous éloigner de Christ jusqu'à ce qu'il faille encore jeûner? Toute votre vie doit être jeûne. Mais le jeûne, c'est une opération ponctuelle. Toute votre vie doit être le jeûne, doit être l'obéissance à Dieu. Laissez tomber le jeûne et obéissez à Dieu tous les jours. Le jeûne est une tentative en opération spéciale de revenir à l'obéissance. Obéissez tous les jours. Arrêtez en vous parlant d'obéissance. Je vous dis en esprit, en vérité, la profondeur du jeûne. Le jeûne, c'est dire à des gens qui pêchent tous les jours, aujourd'hui au moins obéis. Moi, je vous dis obéissez tous les jours. Pourquoi voulez-vous retourner? Jésus dit, est-ce qu'on met du vieux vin dans une nouvelle outre? On prend du vieux tissu, on le collecte à un nouveau tissu? Vous êtes dans la nouvelle alliance, vous êtes dans la vie. Vous voulez utiliser les outils qu'utilisaient les gens qui étaient dans la mort pour ne pas mourir. Séminaire ici tous les mercredis, tous les jeudis, les 21h45. Nous sommes là tous les mercredis, tous les jeudis. Gardez vos questions pour mercredi prochain. Notez que nous sommes là dimanche à 19h pour ceux qui le veulent. Et donc, c'est doux, c'est merveilleux. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais c'est comme ça que votre vie sera merveilleuse. Par exemple, ce que j'ai enseigné ce soir, je ne l'ai pas préparé. J'étais en train de faire autre chose. Quand je suis tombé sur ce passage de Jean 9 là, ce matin, je lisais comme si de rien n'était. Parce que le Saint-Esprit me montrait des choses. Je disais, mais pourquoi? Dieu est merveilleux. Pratiquez la présence de Dieu. Trouvez du temps pour être dans la parole. Trouvez du temps pour prier. Priez en langue. On a fait le baptême du Saint-Esprit pour certains ici la dernière fois. Pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, on va réorganiser bientôt le baptême. Vivez avec le Saint-Esprit. Vous allez être dans une autre dimension. Je veux un groupe qui porte des fruits, pas des religieux. Nous devons voir la différence dans votre vie. Il y a une courbe avec le Seigneur. On doit vivre de gloire en gloire. Pas d'échec en échec. L'échec glorifie Satan. La gloire glorifie Dieu. Et ce, je ne sais pas si vous comprenez. Nous ne sommes pas nombreux ici. Mais ce que nous avons à faire est énorme. Chacun de vous doit devenir commando. Qui permet de toucher beaucoup de gens. Donc, si vous-même, vous n'êtes déjà pas des soldats, on est foutu. Vous êtes obligé d'être des soldats. Parce que vous allez non seulement combattre, mais vous allez être des combattants d'élite. Est-ce que vous réalisez la chance que nous avons d'avoir 4 heures par semaine où le Seigneur nous donne ce niveau de parole? Il y a des choses que vous savez que beaucoup de pasteurs ne savent pas au Bénin. Et même dans le monde. Je ne suis pas pasteur, je n'ai pas fait d'école biblique, je n'ai rien, je n'ai pas de titre, je n'ai rien. Nous sommes ici gratuitement, nous faisons nos affaires, Dieu nous bénit. Et il nous donne ce niveau de parole. Vous croyez que c'est pas hasard? Vous croyez que c'est pas hasard? Dieu dit, à celui auquel il donne beaucoup, il réclame beaucoup. Allez vous asseoir et réfléchir à ça. Si Dieu nous donne ce niveau de parole, ce niveau de lumière, c'est quand même pas pour rester dans les placards avec des lanternes. On doit maintenant passer au combat. Attachez vos ceintures, nous allons bientôt décoller. Là, là, on était en rodage de l'avion. Vous-même, vous sentez, non? Ceux qui sont ici, vous sentez, non? Qu'on est en train de décoller, non? Qui sent qu'on est en train de décoller, les gens qui sont ici, là? Vous avez senti, non? Je vous l'avais déjà dit. J'ai les mains sur les manettes, le Saint-Esprit au contrôle. Si quelqu'un n'attache pas sa ceinture, il va tomber. Parce que nous allons décoller. Écrivez ça quelque part, nous allons décoller. Le Seigneur va faire de grandes choses dans des vies. Il va y avoir des gens qui seront millionnaires ici avant la fin 2014. Des gens seront milliardaires dans ce club. Des gens vont avoir des voitures. C'est-à-dire, ma prière à Dieu me l'a promis. C'est que nous allons être sauvagement, de manière outrageuse, bénis. Les gens, ils n'aiment pas Jésus. Ils vont devoir dire, il y a un phénomène dans le pays. Il y a des gars là qui parlent de Jésus, blagueurs, on croit que c'était la blague. Leur patron là a réussi, on croit que c'est lui seulement. Mais tous les petits qui le suivent, la force de devenir millionnaire, hein, allez voir ce qui se passe là-bas. C'est ça que les gens disent en 2014, bénis. Écrivez ça quelque part, au nom de Jésus. Si quelqu'un ne veut pas être béni, la carte est dans sa maison. Moi, je veux conduire un commando pour Dieu. Si tu es dans un commando, tu ne sais pas porter les armes, il faut demander à Bernard, ils vont te laisser un chemin. Si quelqu'un n'est pas bien entraîné, il ne faut pas qu'il nous suive. Nous allons en commando. Qui veut faire la prière de clôture? Horeb.
Notre Père, notre Dieu, nous voulons bénir ton nom. Père, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que ton amour pour nous est grand. Tu nous aimes tellement. Et à chaque fois, Seigneur, tu demandes une fois encore, nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci Dieu tout puissant parce qu'il t'a plu. Que nous entendions une fois ces paroles. Et que, Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous sachions et que nous nous mettions sur ta bonne voie. Dieu Tout-Puissant, je te confie encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toutes les activités de ce club. Père, permets à ce que tout ce que ta parole dit, Seigneur, s'accomplisse dans nos vies. Notre Père, notre Dieu, merci encore une fois parce que bientôt nous allons nous retourner dans nos différentes maisons. Seigneur, accompagne-nous. Permets, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que toutes les personnes qui sont ici aient leur perspective sous ta protection dans le nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons parce que nous ne savons pas quoi dire. Seigneur, tu es grand, ton amour est merveilleux pour nous. Nous savons, Seigneur, que ta présence est toujours effective à chaque fois que nous réunissons, Seigneur. À chaque fois que nous sommes là pour écouter et pour dire ta parole, tu es là et tu guéris les gens. À chaque fois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous nous unissons, tu dis quelque chose dans la vie de quelqu'un. C'est pour cela, notre Dieu, nous te disons merci parce que tu nous aimes. Père, permets à ce que nous puissions étendre encore cet amour dans la vie d'autres personnes dans le nom de Jésus. Permets à ce que nous soyons effectivement des commandos dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-nous la force, Seigneur, de pouvoir arracher des âmes de l'enfer pour toi, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Donne-nous l'envie, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, de pouvoir marcher et de pouvoir, Seigneur, exécuter avec gloire pour toi le point de commande que tu nous as donné. Merci parce que tu es merveilleux. Bientôt, nous allons nous endormir, Seigneur, que la nuit soit merveilleuse pour tout un chacun de nous. Que demain matin, nous nous retrouvions encore plein de force pour pouvoir nous parquer à nos activités dans le nom de Jésus. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé. Merci parce que tu es Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié.
Amen.
Amen.
Que Dieu vous bénisse.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Didibi et Hermione Huigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi, tandis que la solution existe ?